Bon, nous allons commencer avec un petit peu de retard, mais tout le monde n'est pas arrivé non plus. Alors, quelques paroles de Didier Moreau, directeur d'Espace Mendès France, qui est allé interviewer Edgar Morin à Paris au jour, et dont il a rapporté un témoignage, comme d'habitude, très intéressant.
Merci rapidement, puisque vous êtes venu pour écouter nos intervenants sur les pistes pour l'avenir. Simplement vous dire que par rapport au forum, donc notre ami Edgar Morin, avec qui nous travaillons ici depuis de nombreuses années, avait l'intention de venir, mais dans des conditions de transport un peu invraisemblables. Et vu son grand âge, 91 ans, et on a décidé en fin de semaine dernière de ne pas lui imposer de venir pendant juste 2 heures à Poitiers. Et par contre, nous sommes allés le voir lundi matin avec une équipe télé. Nous avons également interviewé quelqu'un que vous connaissez certainement, qui est dans le milieu une des références en matière de biodiversité, qui s'appelle Jean-Marc Salmon. Donc on a profité pour de cette visite de mobiliser Jean-Marc Salmon. Alors les 40 minutes d'interview, vous les retrouverez sur le site internet de l'Espace Mendès France. Nous avons pour vous ce soir transcription de... Il y a un problème ? Oui, c'est bon. Nous avons fait, oui, c'est de temps en temps. Oui. Nous avons fait une transcription donc d'environ 8 ou 9 minutes, je crois. Donc le contexte, il est très simple. Il n'est bien entendu pas question pour les intervenants de l'Espace Mendès France de conclure définitivement sur ce que seront les 20 prochaines années en termes d'énergie. C'est évident. En même temps, s'il n'y a pas une conclusion technologique ni une conclusion définitive économique, il y a quand même quelques pistes qui se préfigurent. Et ces pistes, Edgar Morin va vous en parler. Ces pistes n'ont rien à voir avec les problèmes de l'énergie. Ces pistes, elles ont trait aux questions liées à la santé publique. Elles ont trait aux questions liées à l'effondrement de la biodiversité. Elles ont trait à toutes ces questions. En fait, on se rend compte que dans les stratégies intellectuelles de Edgar Morin, la notion de pluridisciplinarité, de transversalité et de culture de la complexité se retrouve dans tous les secteurs où actuellement il y a des problèmes et des débats de société. Donc à partir de là, on a demandé à Edgar Morin de faire un point sur cette réflexion. Il y a un réseau de plus de 20 000 chercheurs qui est réuni autour de lui pour à Rio, lors de Rio, faire une contribution. Je vous rappelle qu'il y a 190 000 personnes qui sont attendues à Rio. Et sur cette partie-là, donc, il y a un travail que nous avons engagé à Niort et à Poitiers qui va faire l'objet d'une proposition auprès de l'ONU à partir de ça. Donc l'énergie, encore une fois, je le redis, pour nous, c'est une composante des problèmes de société. Dernier point, dans son intervention, Edgar Morin vous rappellera à tous qu'actuellement, nos concitoyens sont, pour dire les choses trivialement, largués. C'est-à-dire que les poches de compétences qui se sont créées, bien sûr, dans la communauté scientifique, bien sûr, dans la communauté technique, mais aussi beaucoup dans le monde, dans les réseaux associatifs, ces poches de compétences, c'est la traduction de l'espagnol, ces poches de compétences, en fait, de plus en plus, éloignent nos concitoyens d'une compréhension et d'un vocabulaire ou d'un vocabulaire et d'une compréhension. C'est la raison pour laquelle, si vous avez assisté, si vous avez écouté cette émission, quand Edgar Morin et Stéphane Hessel parlent des maisons de la solidarité, il y a 15 jours sur France Inter, ils ont cité l'Espace Mendès France comme étant une préfiguration de ce que ces maisons devaient être. Science, culture, et je pense que c'est bien, science, culture, éducation. Et donc nous serons amenés, Espace Mendès France, à témoigner à Rio, à l'invitation de l'ONU, au mois de juin prochain, tout simplement parce que pour nous la question de la solidarité, elle se règle par les rapports à la connaissance. Et j'en finirai en disant un grand merci à tous les scientifiques, les gens de technique du monde public et du monde privé qui depuis 2 mois nous ont aidés à configurer autour de ce forum un réseau, un nouveau réseau que nous reprendrons bien entendu l'année prochaine dans une autre configuration, puisque ces derniers jours, nous avons pas mal de structures qui sont venues nous demander si l'an prochain on configurait des choses, s'ils pouvaient intervenir, donc structures d'éducation et surtout structures lycéennes. Donc de beaux jours devant nous. Donc je vous laisse avec notre ami Edgar Morin et puis Claude présentera rapidement nos intervenants pour évoquer avec vous quelques pistes pour l'avenir. Donc merci à toutes et à tous.
qui a une multitude de petits projets créatifs de tous ordres, qui sont dispersés et qui ne se connaissent pas les uns les autres, et qui ne sont pas connus ni par les administrations, ni par les partis politiques, ni même par les citoyens. Alors, première chose, c'est que ces projets soient réunis quelque part au fur et à mesure qu'on les connaisse et rassemblés selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Et j'avais un projet, moi-même je pensais faire un deuxième volume qui s'aurait appelé La Voix, tome 2, et où il y aurait eu la recension des projets connus jusqu'à maintenant. Mais j'ai compris que c'était pas juste, parce que les projets sans arrêt prolifèrent, et il faut plutôt créer un site internet. Alors, là-dessus, moi je ne suis pas opérationnel pour ces choses-là, mais je savais qu'un site est en cours de création pour l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire pour tout un aspect des problèmes que pose la voix, le développement des coopératives, l'agriculture bio, etc. Alors, j'ai demandé à voir si on ne pouvait pas élargir sur tous les thèmes de la voix et dans laquelle l'économie sociale et solidaire prenne partie. Alors ça, c'est un truc en cours. Mais je crois, si tu veux, pour résumer, que maintenant, il faut qu'il y ait un lieu de centralisation des projets, pas seulement français, mais d'un peu partout, pour qu'au moins une figure se dessine. Et à ce moment-là, il y aurait la jonction possible avec les grands thèmes esquissés dans la voix. Parce que dans la voix, quelle est l'idée ? L'idée, c'est que tout est à réformer. Je veux dire que ce n'est pas seulement des réformes économiques, il faut réformer les administrations, il faut réformer la justice, il faut réformer la consommation, il faut réformer l'agriculture, il faut réformer les biens, etc. Bon. Ah. Tout est à réformer, et dans le fond, les projets dont on parle, eux-mêmes, concernent un peu tous les domaines. Donc, le vrai problème, c'est qu'il se fasse une conjonction entre la thématique indiquée et mon idée, c'est que les réformes sont intersolidaires. C'est-à-dire, l'idée de voir les réformes uniquement sur le plan socio-économique est incomplète. Voir les réformes uniquement sur le plan éthique, moral, changement de vie est incomplète, si tu veux. D'un côté, il faut changer la société, et d'autre côté, comme dit Gandhi, il faut nous changer nous-mêmes pour changer le monde. Mais moi, je pense que ce sont les deux morceaux à relier ensemble. Et donc, l'idée, c'est que si on relie, dans le fond, toutes les réformes, donc tous les problèmes, et qu'on arrive à cette idée que toutes ces réformes progressent en même temps, elles vont en quelque sorte, comme des ruisseaux peuvent se rassembler en une rivière et les rivières en un fleuve, créer quelque chose qui serait un début de changement de voie. Il y avait, disons, pour parler du dernier grand mouvement qui était le socialisme, il y avait le thème de la révolution, d'une révolution qui serait comme un événement apocalyptique qui amènerait à la société bonne. Or, moi, si tu veux, qu'est-ce que je modifie dans ce schéma ? Je modifie l'idée qu'on puisse avoir une société d'harmonie, genre le meilleur des mondes, mais je maintiens l'idée qu'on peut faire un monde meilleur. L'idée de révolution, sous sa forme limitée, brutale, qu'elle a prise notamment dans le bolchevisme, je l'abandonne. C'est-à-dire, je n'abandonne pas les idées de révolution, parce qu'il peut y avoir des révolutions dans le cadre des nations. Il y a une révolution en Tunisie, je suis pour. Bon, mais j'abandonne la révolution avec un L majuscule et un R majuscule qui va tout faire changer et qui ne suffit pas de supprimer la classe exploiteuse pour que ça s'arrange, puisque l'exemple de l'URSS de la Chine nous a montré qu'une nouvelle classe exploiteuse arrive. Donc, je prends plutôt l'idée de métamorphose, parce que dans la métamorphose, il y a rupture et continuité. Et je pense que pour la métamorphose historique, nous avons besoin d'une continuité avec toutes les ressources culturelles du passé, de la pensée, et pas seulement de la pensée, puisque je vois que, par exemple, que l'agriculture biologique, disons, ou bien que l'écologie fait un apparent retour au passé pour sauvegarder en quelque sorte la nature, mais ce retour au passé est une réquisite du futur, parce que si on dégrade la nature, on ne peut plus avoir de futur. L'agriculture biologique, on fait des composts avec des méthodes traditionnelles liées avec des connaissances nouvelles qui viennent de l'agronomie. Donc mon idée clé, c'est la métamorphose. Disons, c'est une idée force qui est puissante. Parce que la métamorphose, on pense tout de suite à une chenille qui se transforme en papillon et qui a des ailes et qui va voler. Donc voilà un peu ce que je crois. Il y a un vouloir vivre, il y a un vouloir espérer. Et toujours dans les grandes situations de crise, la crise, d'un côté, elle permet l'imagination créatrice qui peut surmonter les conditions de crise, mais la crise permet aussi la régression et la désintégration et le retour à la barbarie. Donc nous sommes dans une situation absolument aléatoire. Le grand changement, c'est qu'il n'y a plus une promesse. Dans le christianisme, il y a une promesse. Dans le marxisme, il y a une promesse. Là, il n'y a pas de promesse, il y a un espoir, il y a une possibilité, il y a une difficulté, il y a un affrontement tragique, aléatoire. Mais c'est la seule. Mais si on est convaincu, comme je le suis, que si on continue dans la voie actuelle, on va vers une série de catastrophes en chaîne, alors, donc, il faut essayer de trouver l'autre voie.
Tout à l'heure, tu me faisais lire un poème de Lorca, enfin plutôt une déclaration de Lorca pour l'illumination de bibliothèque, et j'étais très frappé de combien il associait les revendications contre la faim aux revendications pour le livre.
Tu l'as lu, là?
Oui, bien sûr.
Super.
C'est superbe, cette phrase de Lorca sur l'homme a besoin non seulement de pain, mais en même temps de livres. Quelqu'un dans la rue qui a faim, il faut aussi lui donner un livre.
Et il cite Dostoïevski, quand il était déporté en Sibérie, demandait aux siens « Envoyez-moi des livres en lui disant, sinon je ne peux pas vivre. Ouais. » Ok.
Merci. Merci Edgar, superbe.
Bon, alors maintenant, passons aux choses sérieuses.
C'était sérieux.
Avec Jacques Darbier, qui est le régional de l'Étape, que tout le monde connaît, puisqu'il est le président du pôle éco-industrie Poitou-Charentes. Michel Jean, qui est le directeur général de Maxi Énergie. Alors là, c'est un peu plus compliqué, il expliquera ce que c'est. Et Jean-Pierre Joly, directeur général de l'Institut national de l'énergie solaire. Bon, voilà. Alors, apparemment, ces messieurs sont dans des domaines très différents. Mais enfin, ils sont tous dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, celui des énergies. Alors, dans le pôle des éco-industries, on va commencer Jacques Darbier, à une des principales tâche de votre pôle, c'est de précisément, je crois, enfin vous allez me le dire, d'aller dans différentes sources d'énergie, de les rassembler, de ensuite faire de la recherche, bien entendu, mais ensuite trouver les applications industrielles. Non, c'est ça. Bon.
Oui, donc je vais me présenter personnellement. Donc, je suis d'origine universitaire et de formation chimiste. Et il y a maintenant plus de 12 ans, j'ai pris la direction d'une plateforme de recherche qui est plutôt orientée sur la chimie verte et sur les carburants issus du végétal. Donc ma grande spécialité, c'est ça. Mais à côté de ceci, je suis président du pôle des éco-industries. Ce pôle des éco-industries a un objectif, une mission générale qui est participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et cette mission se décline en deux chapitres. Un premier, c'est la substitution du carbone fossile par du carbone renouvelable dans toutes ses applications. Donc ça va être les carburants, ça va être les produits chimiques, ça va être etc. Et puis il y a un deuxième chapitre, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'approche des différents domaines où effectivement on en produit beaucoup. Donc la première approche, c'était l'éco-habitat. Et donc nous avons beaucoup travaillé et puis nous sommes allés avec la création d'un cluster éco-habitat qui est maintenant reconnu dans la région. Et donc l'éco-habitat est quelque chose qui s'est un peu séparé du pôle mais qui s'en est pas totalement séparé. Nous avons l'éco-mobilité avec essentiellement l'électromobilité et puis nous avons les énergies renouvelables. Le dernier chapitre est un chapitre qui à mon sens est le plus important pour l'avenir. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle, c'est d'introduire dans notre démarche industrielle l'utilisation non plus de gisements, on ne peut plus aller puiser dans les gisements, mais l'utilisation simplement de nos déchets. Et donc, on va aller chercher du carbone dans nos déchets, et on s'aperçoit que si on en parlera un petit peu tout à l'heure, il y en a des quantités qui sont aussi importantes que le pétrole qu'on peut importer. On va aller chercher les minerais, les minéraux, puisque les minéraux aussi, on nous parle toujours du pétrole qui disparaît. Mais en réalité, ce qui disparaît le plus dangereusement pour notre survie, c'est tous les minéraux, les métaux en particulier. Il y a des métaux comme l'argent qui a presque totalement disparu. Les gisements, si on continue à puiser, ne vont pas dépasser une dizaine d'années. Et donc, mais ça, personne n'en parle. Quoi. C'est comme si la seule chose importante, c'est qu'on puisse continuer jusqu'à notre fin à rouler en voiture. Et puis, les énergies renouvelables. Alors, les énergies renouvelables avec essentiellement le photovoltaïque, l'éolien un petit peu, mais nous ne sommes pas très spécialistes. Et puis, ce dont je parlais tout à l'heure sur le carbone renouvelable d'une façon générale.
Alors vous, sur Maxi Énergie, vous occupez alors là spécialement d'une ressource alors, inépuisable qui est celle de l'hydrogène.
Oui, en fait, nous sommes une toute petite PME que j'ai créée avec un chercheur du CNRS de Grenoble, Daniel Fruchard, qui est venu avec moi aujourd'hui. Et nous sommes partis sur l'idée donc du stockage des énergies renouvelables et des énergies renouvelables. Et on a créé cette société mais il y a 3 ans maintenant et sur l'intérêt du stockage de l'hydrogène sous forme solide. C'est-à-dire que le CNRS à Grenoble avait développé depuis de nombreuses années, a beaucoup travaillé sur la forme des hydrures métalliques. Et donc moi, je suis métallurgiste, spécialiste du magnésium. Et j'avais une usine de transformation en France donc de magnésium sous forme de poudre et de granulés. Et c'est ensemble qu'on a pensé à un projet d'utiliser ces poudres de magnésium pour faire du stockage solide de l'hydrogène et utiliser cet hydrogène, bien entendu, pour pouvoir valoriser les énergies renouvelables qui sont un peu versatiles. On a du vent, on n'a pas de vent, on a du soleil, on n'a pas de soleil, il y a du soleil la journée, pas la nuit, et de trouver un moyen pour faire du stockage massif, cette fois, de l'énergie. On parle de gigawattheures, on parle pas de quelques kilowattheures. On est sur des grosses installations, donc c'est du stockage stationnaire. Vous ne verrez pas des applications pour l'automobile, sinon quelques applications que nous avons sur la station-service typique. Comment on va distribuer l'hydrogène s'il y a un développement de véhicules à hydrogène à pile à combustible? La station-service est un énorme problème parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait de la distribution d'hydrogène sur la route par camion, ce qu'on appelle des trailers, dans un camion de 42 tonnes qui roule sur la route, on ne met que 300 kg d'hydrogène. Donc, comme une voiture va utiliser, en gros, pour faire 500 km, il faut 5 kg d'hydrogène. C'est 1 kg d'hydrogène pour faire 100 km. Donc, le problème de la station-service va se développer. Et on travaille beaucoup avec l'Allemagne. En France, pour l'instant, c'est toujours interdit, mais on travaille beaucoup avec l'Allemagne pour le développement de véhicules à la fois hybrides, électriques et hydrogènes. Alors, là, ce que je vais vous montrer...
C'est dangereux, quand même.
Non, justement, c'est dangereux, bien entendu, mais les précautions sont prises pour pouvoir faire du stockage embarqué à grande pression. Nous, on a d'autres idées sur le stockage solide que je vais vous présenter. Alors, voilà. En gros, si vous voulez, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Voilà. En gros, l'hydrogène, en fait, je vous ai fait un petit tableau pour expliquer ce qu'était l'hydrogène. Quand vous prenez de l'hydrogène que vous voyez ici, vous avez la densité énergétique, qui est le PCI qu'on appelle dans un gaz, l'hydrogène par rapport au gaz naturel, par rapport au propane, au gazole et à l'éthanol. Vous voyez la quantité d'énergie que l'on peut stocker dans un kilo d'hydrogène. Un kilo d'hydrogène, c'est 11,2 normomètres cubes, ceux qui sont habitués au niveau du stockage volumique. Donc 33 kWh par kilo. Ça veut dire qu'avec 33 kWh, par rapport à une batterie, par exemple une batterie lithium dans une voiture, c'est de l'ordre de 80 Wh par kilo de batterie. Disons 100 Wh par kilo. Nous sommes à 33 kWh par kilo. Donc une grande capacité de stockage énergétique par kilo. Malheureusement, l'hydrogène, c'est tellement léger que on a un gros problème pour le stockage, c'est ce problème de densité volumétrique. Ça veut dire que quand on veut mettre par mètre cube, lorsqu'on avait imaginé, vous avez vu les départs de navettes qui sont propulsées avec des moteurs à hydrogène, dans un mètre cube physique d'hydrogène liquide, le mètre cube pèse 70 kg. Dans un stockage à 700 bars, ce qu'on appelle le stockage hyperbar, qui est le stockage utilisé pour les voitures en Allemagne, on met que 42 kg. Et dans ce qu'on a, nous, développé dans le stockage solide sous forme d'hydrure, dans un mètre cube de magnésium, on met 106 kg d'hydrogène. Mais là, il est sous forme atomique, il est sous forme solide. Alors, c'est ce développement qu'on a décidé et que j'ai créé la société pour pouvoir développer justement des applications dans ce stockage solide. Excusez-moi, j'ai du mal à changer de... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on propose, nous, en fait? On veut concevoir des stockages d'énergie pour pouvoir stocker des énergies renouvelables sur du long terme. Alors, bien sûr, avec la production d'hydrogène vert, dans le sens où cet hydrogène est produit par soit de l'éolien, du photovoltaïque ou même du solaire thermique. Et on a en fait une liaison directe, soit ce solaire produit et alimente les réseaux électriques, soit on passe par un électrolyseur, c'est-à-dire que l'électrolyse de l'eau, bien sûr qu'il y a un certain rendement, l'électrolyse de l'eau nous permet de stocker dans des réservoirs qui sont des gros conteneurs, et on peut stocker de grandes quantités d'hydrogène qui soit est utilisé directement en tant que molécule gaz, parce que le marché de l'hydrogène gaz pour les applications dans le verre, pour la métallurgie, c'est un marché très très important, ou bien on fait une réversion avec un autre rendement, bien entendu, avec des piles à combustible, ou même on vient de vendre des réservoirs à Enel, qui est en fait l'EDF italien, et qui veut se lancer dans la production d'électricité avec des turbines à hydrogène. C'est-à-dire une turbine à gaz peut aussi fonctionner à l'hydrogène. Donc voilà un petit peu le principe de nos stockages. Ah, c'est dommage. Alors comment ça fonctionne ? J'ai simplement rapporté en fait comment la molécule d'hydrogène s'associe dans une structure de magnésium. En fait, ça, ce sont les travaux du CNRS de Grenoble. On a, si vous voulez, un réseau atomique qui est le réseau du magnésium. Et vous voyez que la petite molécule d'hydrogène, H2, vient se dissocier en surface du magnésium pour former un réseau tout à fait particulier que vous avez en bas, qui est le réseau donc, de forme ce qu'on appelle rutile. Et nous avons mis au point en fait toute la technologie pour pouvoir structurer, nanostructurer la structure du magnésium pour que l'hydrogène puisse pénétrer suffisamment rapidement, désorber et absorber en fonction d'une pression et d'une température. Alors le réservoir, nos réservoirs travaillent entre 280 et 340 degrés, ce qui rend à pression atmosphérique le produit tout à fait stable. Ça veut dire qu'une pastille qu'on peut manipuler à l'air, qui contient 500 litres d'hydrogène, d'une pastille de magnésium, est complètement stable à température ambiante. Et on peut stocker dans une pastille qui est une sorte de disque 33 tours d'un centimètre d'épaisseur, qui fait en gros un litre. Hein, le volume de la pastille, c'est à peu près un litre. On stocke 500 litres d'hydrogène dedans. Vous voyez, la compression équivaut à une compression physique de 500 bars. Donc voilà un petit peu le...
Et encore une fois, sans danger.
Et encore une fois, sans danger, puisque, en fait, pour pouvoir désorber l'hydrogène, il faut monter la pastille à 340 degrés. Nous travaillons à 340 degrés. Alors, bien entendu, ça demande beaucoup de gymnastique, puisqu'il faut gérer la partie thermique de façon très importante. Et vous verrez quelques modèles de réservoirs que je vais vous montrer. Alors, voilà l'usine qui a démarré dernièrement. Nous sommes maintenant en production. J'ai réussi à lever des fonds avec des investisseurs qui ont cru à notre projet. Et cette usine commence à produire des pastilles. Donc malheureusement, comme il n'y a plus de producteurs de magnésium ni en Europe ni au Canada, nous sommes obligés d'acheter le magnésium en Chine. Et je fais un broyage nano de ces produits. Et voilà, on fait une pastille avec quelques machines que vous verrez peut-être plus tard. Je les ai un peu plus loin. Et on fait des réservoirs qui, en fait, on empile des pastilles. Et ces pastilles échangent avec un matériau à changement de phase, donc qui est un alliage métallique qui fond à 340 degrés, qui nous permet de stocker. Alors vous voyez les deux types, soit on échange avec l'extérieur, les conteneurs qui contiennent, qui stockent, on peut stocker dans 70 kg d'hydrogène dans un 20 pieds, c'est-à-dire les petits conteneurs, ce qui peut correspondre à un stockage de 2,3 MWh. Les plus gros maintenant peuvent stocker 23 MWh. Donc ce sont d'énormes batteries, mais bien entendu derrière il faut une réversion, soit vers l'électricité ou bien l'utilisation de l'hydrogène en tant qu'hydrogène gazeux pour des applications. Alors, j'ai un tableau ici qui est intéressant parce que ça, ce sont les objectifs de la production européenne de l'Europe qui sont des objectifs sur l'énergie renouvelable. Ça veut dire que par pays, c'est les 27 donc, pays européens, on voit la France qui est située à peu près donc, au tiers bas. Ce sont les objectifs qu'on doit atteindre, l'objectif de 20% à l'horizon 2020. Vous voyez que pour l'instant, on en est encore loin. Maintenant, il y a des pays qui ne font pas du tout d'objectifs énergie renouvelable. Et nous, en fait, nous, on voudrait répondre à ce besoin en offrant une alternative pour valoriser ces produits-là sous forme d'hydrogène. Ça veut dire que l'énergie renouvelable, qui est difficilement... utilisable sur les réseaux, à partir de 30% sur un réseau électrique, vous avez des problèmes de stabilité. C'est déjà arrivé en Allemagne. Il y a même des gros problèmes en Allemagne. Ils sont obligés de mettre en stand-by beaucoup, beaucoup d'éoliennes parce que le réseau est déstabilisé. Et nous, on veut prendre ce marché sur ce créneau, donc du stockage. Ça veut dire qu'il y a trop d'énergie et à un moment où on n'en a pas besoin, ben on le stocke. Et on le stocke sous forme d'hydrogène parce que des batteries, bien sûr, on peut stocker en batterie, mais il faudrait des milliers de tonnes de batteries lithium pour stocker les mêmes quantités d'énergie par rapport à l'hydrogène.
Je remarque que l'objectif de 20% en 2020, c'était en 2010, il y a quelques années.
C'est vrai. Ça a changé un peu, mais bon, on est toujours... Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme autre voie technologique pour le stockage de l'énergie ? Alors, on a essayé de regarder, on a fait une étude comparative pour, par exemple, une capacité de stockage de 300 MWh, une charge sur 18 heures avec une décharge de 50 MWh sur 6 heures. Donc, voilà les diverses technologies qui existent. Alors, on a des travaux qui sont faits, et pour l'instant, ce sont des travaux qui ne sont pas encore opérationnels. Hormis le stockage sous forme hydraulique, c'est-à-dire lorsqu'on a de l'électricité en trop, on repompe de l'eau et on vient remplir des barrages et on utilise l'eau en returbinant depuis le barrage au moment où on a besoin d'électricité. Et ça, c'est le meilleur des rendements, c'est 70%. Par contre, il y a beaucoup de technologies, donc voilà, les positions par rapport à l'hydro, le pumped hydro. Alors, il y a d'autres projets, en particulier sur les redox, mais là, ce sont que des projets. Vous avez aussi les grosses batteries sodium-soufre qui ont été développées. Merci. Voilà, les grosses batteries sodium-soufre qui ont été développées par les Japonais. Et on a appris dernièrement, malheureusement, il y a encore eu un gros problème au Japon. L'usine de fabrication de ces batteries, le sodium-soufre liquide, c'était extrêmement dangereux. Dans les années 70, moi j'ai connu ça dans les années 70, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites à l'Institut Battel à Genève. Les Allemands ont beaucoup travaillé et tout avait été abandonné. Les Japonais ont voulu reprendre cette technologie qui a d'ailleurs été achetée par EDF pour alimenter l'île de la Réunion. La usine a brûlé et elle a flambé pendant 15 jours. Donc toutes les applications batterie sodium-soufre sont arrêtées pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste l'hydrogène, il reste d'autres. Il y a des projets également de stocker l'électricité sous forme d'air comprimé dans des cavernes. On remplirait des cavernes, donc on ferait des gros réservoirs sous pression sous terre. Donc, voilà en gros tout ce qui se développe actuellement pour le stockage, je dis bien massif. On n'est pas au niveau de quelques kilowattheures. Alors, notre source à nous, c'est la source ENR. Les rendements batterie sont estimés à 0,8. Le rendement de l'électrolyse, ça veut dire que vous prenez un électrolyseur, vous le branchez sur le réseau électrique, ben, il va grosso modo avoir un rendement de 0,7, 0,70 ou 0,72. Ça veut dire que vous allez perdre, bien entendu, de l'énergie en transformant cette énergie en hydrogène. Sachant que l'hydrogène, à chaque kilo que vous stockez 33,3 kWh. Alors cette valorisation sous forme de molécules d'hydrogène, actuellement, c'est vendu autour de 10 euros le kilo. Ça veut dire qu'on voit bien que la valorisation électrique, si on le valorise électrique, ça correspond à 200 euros par mégawattheure. Ce qui est intéressant parce que dans les périodes de nuit, en fait, y compris en Allemagne, sur les énergies renouvelables, soit le vent, par exemple, les fermes d'éoliennes, on arrive quasiment à des prix négatifs. Ça veut dire que les réseaux sont tellement surchargés qu'on ne sait plus quoi faire de l'électricité. Donc l'électricité ne vaut plus rien. Alors soit on arrête les éoliennes, et on met les éoliennes en drapeau, ou bien on la stocke. Mais stocker de l'électricité, comment ? Sous forme d'hydrogène. C'est ce qu'on a pensé qui était le meilleur système. Alors voilà un petit peu, je vais vous expliquer aussi comment ce que l'on fait, en gros, au niveau de la production. Actuellement, il y a un marché qui représente à peu près de l'ordre de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, c'est le marché mondial de l'hydrogène sous forme gazeuse. C'est grosso modo, ce marché, c'est les grands tels que l'Air Liquide, Praxair, Linde, les Allemands et autres. Mais tous ces gens, en fait, fabriquent par réformage du gaz naturel. Ça veut dire que 95% de la production mondiale actuellement est faite par réformage de ce gaz naturel, CH4, et on casse la molécule avec de la vapeur. Malheureusement, on est à plus entre 10 et 12 kilos. Ça veut dire que chaque kilo d'hydrogène, chaque tonne d'hydrogène que l'on fabrique, va libérer dans l'atmosphère de 10 à 12 tonnes de CO2. Et pour l'instant, on n'a pas d'autre solution que ça, sauf prendre par l'électrolyse, donc qui est en gros 5% du marché actuel. Et malheureusement, bien sûr, on perd du rendement. Mais là, la quantité de CO2, donc ça dépend uniquement de l'électricité qu'on utilise. Malheureusement, les Allemands qui voient cette voie sont pénalisés par une électricité qui contient beaucoup de CO2. Et nous, la France, avec le nucléaire, on a beaucoup de chance parce qu'on a, on va avoir une électricité qui ne contient pas de CO2. Donc on veut développer une partie production d'hydrogène via le nucléaire. Il y a eu beaucoup d'essais dans le nucléaire qui ont été développés, en particulier pour la fabrication donc des carburants synthétiques. Et vous avez tous entendu parler pendant la dernière guerre, les Allemands fabriquaient de l'essence synthétique à partir des procédés qui s'appelaient des procédés Fischer-Tropsch. Et Fischer-Tropsch, c'est une fabrication en fait d'un hydrocarbure synthétique. On prend de la biomasse, on prend du charbon, et en mettant de l'hydrogène avec ça, on arrive à refaire un hydrocarbure. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Alors, l'idée pour nous, c'est surtout avoir une électrolyse couplée avec des énergies renouvelables, et on pourrait faire des carburants synthétiques, bien sûr, avec de la biomasse. Donc, mais par contre, il faut passer par une voie stockage, il faut passer par une voie de rétention de cet hydrogène. Et alors, nous, on va développer la forme solide, avec ces nouvelles technologies. Ça, c'est en gros ce qui existe actuellement. On promène l'hydrogène sous forme de... On appelle ça des cylindres, mais ce sont des bouteilles. Vous avez vu les grandes bouteilles d'hydrogène. Donc, il y a une forte empreinte CO2, parce que c'est beaucoup d'acier. On a la forme cryogénique. Donc, le problème de l'hydrogène liquide, c'est moins 252 degrés. Donc, c'est uniquement pour les applications de l'espace, c'est-à-dire propulser donc des engins dans l'espace. Il y a quand même une application cryogénique aux États-Unis, c'est-à-dire que comme l'électricité hydraulique coûte très peu cher au Canada, il y a une grosse production dans la région de Trois-Rivières d'hydrogène liquide et qui est distribuée par camion jusqu'en Floride. C'est-à-dire qu'il y a des camions d'hydrogène qui roulent, qui passent du Canada jusqu'en Floride. Ce sont une gabegie au niveau de la production de CO2 avec tous ces camions. Et puis vous avez le pipeline qui est en fait le tube directement qui alimente. Alors c'est pour les infrastructures lourdes. Alors à quoi ça sert l'hydrogène? Eh bien ça sert surtout pour les raffineries. Pour les raffineries et la production de l'ammoniac pour les engrais. Ça veut dire que sans hydrogène, il n'y a plus d'engrais. Et ça, c'est un point très, très important. Alors, est-ce qu'on va continuer à faire des engrais avec le réformage du gaz naturel? Parce que qui dit gaz naturel qui disparaît ou pétrole qui disparaît, disparaissent les engrais, disparaissent les productions d'ammoniac. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de soucis à se faire si on reste sur la voie donc, du réformage du gaz naturel. Et c'est pour ça qu'on veut cette promotion de l'électrolyse à partir des énergies renouvelables. Alors donc c'est un contexte du marché. Il y a des contrats d'application sur cette loi donc du 10 février qui a consacré l'obligation d'achat comme système de soutien au développement des énergies renouvelables. Des contrats d'obligation d'achat ont été mis en place par filière et ces contrats donc sont uniques. Et on vient de mettre un projet en route qui est la valorisation sous forme donc d'hydrogène industriel. Ça veut dire que actuellement, ça c'est une hypothèse de fonctionnement d'un petit électrolyseur. Actuellement, vous savez que tous les prix de rachat que ce soit de rachat d'électricité et en particulier dans l'hydraulique, les petits producteurs d'hydraulique dans notre région en Rhône-Alpes, nous avons beaucoup de petits producteurs d'énergie électrique qui turbinent, le mégawatt de puissance électrique. Et ces gens, actuellement, revendent à un très bon prix sur le marché pour EDF, leur reprend cette électricité. En 2012, c'est terminé. Ça va être au prix du marché. Ça veut dire que lorsque EDF est en sursaturation de production nucléaire, de nuit par exemple, eh bien, ces gens ne vont plus pouvoir vendre leur électricité hydraulique qui est au fil de l'eau. Et on propose donc, nous, avec quelques investissements, de produire en fait un gaz qui est le gaz hydrogène et de le vendre sur le marché. Et on a en fait des retours sur investissement qui sont, vous voyez, sur 10 ans de 14,6%. Donc c'est un marché intéressant. Alors voilà, en gros, ce sont quelques exemples d'études de cas, production sur site, sachant que dans beaucoup d'usines, on utilise l'hydrogène, par exemple sur le flot de glace. Vous avez tous des voitures, des vitres. Les vitres qui sont fabriquées en flotte glace, on fait flotter le verre liquide sur un bain d'étain. Et le bain d'étain est sous hydrogène. Ça veut dire qu'on empêche l'oxydation du métal par un bain d'hydrogène. L'hydrogène flotte au-dessus. Et c'est des grandes quantités d'hydrogène. Et on propose justement d'utiliser un électrolyseur et fabriquer dans l'usine, au lieu d'avoir des camions qui roulent jour et nuit à transporter quelques 300 kilos pour 42 tonnes roulant. Vous voyez, c'est ce genre d'application. Et on a des rendements financiers qui sont intéressants. On fait aussi une étude de cas. Ça, c'est l'étude de cas pour une usine, donc pour des stations-service en Allemagne. L'Allemagne a utilisé le stockage liquide. Vous avez certainement entendu des essais de BMW de voitures à moteur thermique, non pas pile à combustible, à l'hydrogène. Et ils étaient partis sur l'hydrogène liquide. Ça a été un fiasco. Parce que le problème de l'hydrogène liquide, c'est d'abord sa production, son coût. Alors on a le programme actuellement qui est le programme complexe avec toute la logistique, transporté par camion à 300 bars et remettre en compression, puisque sur les voitures en Allemagne, ce soit du 400 ou du 800 bars. Et notre solution, nous, c'est de fabriquer sur site, avoir un stockage fabriquer sur site quand l'électricité est pas chère, avoir un stockage important et compresser quand les voitures viennent à la station service. Donc voilà un petit peu l'usine qu'on a montée. Donc maintenant on a un peu plus puisque je viens de rembaucher quelques 3 personnes maintenant. On va augmenter, on va passer l'usine à 3 équipes, on va travailler 24 heures sur 24 et donc on va passer entre 50 et 60 personnes assez rapidement. Donc cette première ligne de production, en fait, on a donc un four d'hydruration, c'est-à-dire on part de magnésium qu'on achète en poudre et on fait une première hydruration. On a des broyeurs à haute énergie qui sont des broyeurs à billes et où on vient, selon les technologies qui ont été développées au CNRS de Grenoble, on vient nanostructurer ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le produit devient en fait très fracturé pour que l'hydrogène pénètre et sorte rapidement. Et ensuite, on fait des pastilles avec une machine automatique. Donc, on fait des pastilles pour mettre dans nos réservoirs. Alors voilà. Donc, je termine avec ce qu'avait dit Jules Verne en 1874. Donc, ce qui est toujours d'actualité, je pense. Voilà. Donc, je vais participer au débat maintenant. Je vous laisse un petit peu sur ce que je vous ai présenté. Je vais vous laisser la parole.
Oui. Donc, comment ça se fait qu'il n'y a plus de magnésium?
La production, je suis un ancien producteur, j'étais péchiné électrométallurgie dans ma vie professionnelle, j'étais ingénieur de métallurgie et malheureusement, c'était en 2001, la société Péchiné qui a été en grosse difficulté a décidé de fermer l'usine qui était à Marignac à côté de Toulouse et on a scrappé et on a rendu le terrain agricole. Alors, il n'y a plus d'usine en Europe, il n'y a plus d'usine en Norvège, parce que les Chinois ont fait un dumping financier, on perdait 500 euros par tonne. Ça veut dire qu'on faisait 15 000 tonnes par an, et à chaque tonne, on perdait 500 euros à la tonne. Ce qui veut dire que la société n'était plus viable. Sauf que maintenant, si on avait conservé, les Chinois sont devenus des producteurs importants. Ils représentent maintenant 85% du marché mondial. Le marché mondial du magnésium.
Donc ils contrôlent les prix alors.
Et ils ont commencé à augmenter les prix. Depuis 2 ans, le prix du magnésium a augmenté. On a la chance que la grosse utilisation du magnésium, ce sont les alliages d'aluminium, les alliages pour fenêtres, ça contient un tout petit peu de magnésium. Et les gros producteurs se sont reconcentrés et ont réussi à faire des stocks très importants. Et ils tiennent un peu les Chinois. Ça veut dire que s'ils augmentent les prix, ils n'achètent plus pendant 4, 5, 6 mois. Et les Chinois sont exsangues au niveau trésorerie. Donc, ils rebaissent les prix. Ça se joue que ça. Mais il n'y a plus de production. Seuls les États-Unis ont conservé leurs usines parce que c'était à l'époque encore Clinton. Clinton avait pris la décision. Il a mis 180% de droits de douane. Il a augmenté donc les droits de douane de façon violente et il s'est protégé ses usines comme ça. Sauf qu'il y a eu beaucoup de remarques, bien sûr, sur le marché américain. Les utilisateurs américains dans l'automobile qui achetaient du magnésium ont abandonné le magnésium parce que c'était trop cher. Mais bon, les usines américaines existent toujours. Voilà. En gros, l'aspect. Alors, vous parliez tout à l'heure des matières premières. Il y a eu quand même au niveau européen une prise en compte de ça. Et le magnésium fait partie des 14 métaux stratégiques qui ont été cités par la communauté européenne. Je fais partie d'une commission d'ailleurs là-dessus. Et on essaye de remettre en place une production européenne avec les grands métallurgistes européens parce qu'il nous faut nous prémunir contre vraiment, vraiment un arrêt de livraison des Chinois. Voilà.
Alors, on a parlé donc qui reste une source inépuisable encore, c'est celle du soleil. Et c'est M. Joly qui dirige l'Institut national du solaire qui va nous en parler. Parce que je crois aussi que là-dessus, il y a eu des vrais problèmes de financement sur le voltaïque, tout ça. Oui. On a pris du retard, comme un peu partout. Parce que, bon, on disait tout à l'heure, l'objectif de 20% d'énergie renouvelable fixé par l'Europe, c'était pour 2010, si je me souviens bien. Et maintenant, on l'a repoussé à 2020. Alors, qu'en est-il du solaire ?
Oui, qu'en est-il du solaire ? Oui, en fait, l'énergie solaire, bon, comme vous l'avez dit, elle est inépuisable. On en a une quantité très importante. On a deux difficultés. On a deux difficultés en ce qui concerne l'énergie solaire. C'est le prix. C'est le prix des composants, hein, de l'investissement qu'on doit faire, hein, pour le différent type de conversion. C'est vrai à la fois pour la conversion photovoltaïque, c'est vrai pour la conversion directement thermique, hein, pour faire de l'eau chaude, en particulier l'eau chaude sanitaire. Et c'est vrai aussi pour ce qu'on appelle le solaire thermodynamique, c'est-à-dire à partir de la chaleur, refaire de l'électricité. Donc en fait, tout l'enjeu, ça va être de diminuer le prix de ces matériels. Et donc en fait, toute la recherche et développement qu'on mène est beaucoup centrée là-dessus. Le deuxième problème, et il vient d'être souligné par McPhee, c'est en fait effectivement le problème de l'intermittence, hein, c'est-à-dire qu'effectivement à partir d'une certaine quantité d'injectés sur un réseau, on n'a pas forcément adéquation entre guillemets entre l'offre et la demande, donc on a une difficulté à ce titre-là. À ce niveau-là, on a deux façons de faire, le stockage, hein, c'est celui qu'on a été présenté tout de suite, et puis je dirais travailler aussi sur en fait mettre de l'intelligence dans le système, dans la façon dont on gère la demande, parce qu'il y a un certain nombre de charges d'utilisation de l'électricité qu'on peut décaler dans le temps. Alors, pas tant que ça, mais quand même, il y en a, j'en cite plusieurs, hein, bien sûr, le véhicule électrique, bon, on a souligné l'importance du véhicule électrique, donc ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de charger directement, parce que, bon, le véhicule, on ne l'utilise pas tout le temps, hein, donc on peut attendre un peu. Il y a par exemple le stocker du froid, hein, parce que l'électricité, ça sert à faire du froid, donc ça se stocke assez bien. C'est un autre exemple. Il y en a d'autres. Hein. Vous pouvez décider de décaler, si vous avez une prise intelligente, le moment précis où vous allez faire tourner votre machine à laver, hein, à partir du moment où vous tolérez que votre linge soit propre un peu plus tard. Voilà, donc c'est un titre d'exemple. Donc, pour revenir au premier sujet, donc le premier sujet, c'est effectivement la diminution du coût. Donc la recherche et développement qu'on mène, elle vise essentiellement à ça. Bon, bien sûr, en parallèle, et c'est notre objectif, c'est pour ça qu'on a créé cet institut, c'est aussi de faire que la France ne soit pas absente de cette industrie qui risque de devenir une industrie absolument majeure dans les années qui viennent avec l'augmentation du marché. Alors là aussi, comme dans les autres marchés, on a signé... Donc la concurrence asiatique féroce, on est dans une concurrence asiatique féroce. Mais pour autant, on est complètement certain qu'il n'y a pas de... en termes d'avantage compétitif, ils n'ont pas un avantage compétitif parce que ce n'est pas un problème de coût de main-d'œuvre. À nouveau, c'est un problème de frais financiers. Donc on se bat pour ça. Donc on a créé cet institut... Pour tout ça, on est parti de rien en 2005-2006. On est à peu près 350 personnes, ce qui prouve qu'on arrive à faire des choses en France. Alors ça a été beaucoup, beaucoup porté localement et pas nationalement. La région Rhône-Alpes et la Savoie ont décidé d'investir de l'argent public en assez grande quantité pour créer cet institut. Mais bien sûr, on a aussi maintenant beaucoup de soutien industriel. On a à peu près 150 partenaires industriels. Le plus gros de nos financements de programme, je ne parle pas d'investissement de machines, mais de programme vient de ces industriels. Et ces industriels, ce sont essentiellement des PME-PMI. Ce qui prouve que, bon, un peu, elles y croient, elles créent des emplois sur le secteur, elles essaient de se battre sur ce marché international, mais c'est à peu près, je dirais, le modèle, on va dire, de fonctionnement de l'Institut qu'on a créé. Alors, les organismes qui sont investis dans l'Institut, bon, il y a différents organismes de recherche, mais c'est essentiellement CEA, et moi, personnellement, je suis CEA. Vous savez que le CEA, maintenant, s'appelle le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et qu'il a quand même assez fortement investi dans l'énergie solaire. Voilà. Alors, oui, j'ai oublié de préciser une chose, on travaille à la fois... On a décidé dès le départ, et c'était un pari, de travailler sur tous les aspects de l'énergie solaire, c'est-à-dire d'une part l'énergie photovoltaïque, d'autre part l'énergie solaire thermique, et puis dans tous ces domaines-là, de travailler, on va dire, du matériau jusqu'à l'application. Et en termes d'application, on a aussi développé un laboratoire spécifique sur l'énergétique bâtiment, parce qu'on pense que travailler sur les renouvelables sans s'intéresser à l'usage qui en est fait, et en particulier dans les bâtiments, c'était pas une bonne chose, parce que on doit aussi en parallèle travailler sur l'efficacité énergétique, y compris aussi dans la gestion des qu'on appelle des apports solaires passifs. C'est là que ça rejoint le solaire. Vous savez que par vos fenêtres, il rentre à peu près la quantité d'énergie dont vous avez besoin dans l'année. Bon, ça arrive pas forcément au bon moment. Et pas forcément, je dirais, de façon forcément efficace. Bon, néanmoins, c'est important. Alors, des fois, c'est intéressant. L'hiver, vous avez intérêt à le faire rentrer quand il y a du soleil pour chauffer votre maison. L'été, c'est quand même beaucoup plus gênant parce qu'effectivement, éventuellement, derrière, vous allez faire de la climatisation et reconsommer de l'énergie. Donc, la gestion des apports solaires, c'est aussi un point sur lequel on a beaucoup travaillé. Et ça va être d'autant plus important dans les maisons à très forte isolation, ou très très vite, avec très peu d'apport, vous allez, quitter la plage de confort, température de confort. Donc c'est aussi une thématique sur laquelle on travaille très fort.
Comment ça se fait que l'État a freiné les subventions?
Alors, pour expliquer très fondamentalement les choses, c'est que comme on avait un système qui sont encore... donc le prix du watt solaire était élevé, il a fallu, disons, et que le prix du watt, la diminution du prix du watt, elle est liée au démarrage du marché. En fait, on a des courbes, je ne les ai pas amenées ici, mais qui montrent très bien qu'on arrive à diminuer le coût en fonction de la quantité produite. Donc ça veut dire qu'on a décidé, certains pays ont décidé, c'est essentiellement le Japon, mais plus tard essentiellement l'Allemagne, qui a décidé de mener une politique de ce type-là. Ils ont fait un pari, ils ont une vision d'avenir, on va dire, en disant il va y avoir une transition énergétique. L'énergie solaire, on sait d'après ces lois qu'elle va baisser, qu'un jour le prix du kilowattheure solaire va être faible, mais il faut lancer le marché. Donc il faut lancer et mettre des tarifs d'incitation pour lancer ce marché. D'ailleurs, ils ont fait un bon pari parce que très bientôt, avec la quantité qui maintenant est produite, on va atteindre des prix du kilowattheure qui vont être très faibles. Donc les gens de McPhee vont être très contents, parce que je pense que pour eux, c'est important. Et donc, les Allemands ont installé ce système d'incitation. Alors, ils l'ont installé sous forme de rachat de l'électricité, donc d'incitation par le tarif d'achat. Donc, un tarif d'achat privilégié. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et les Français ont essayé de copier ça. Donc ça, c'est suite au gouvernement de Villepin. D'ailleurs, pour la petite histoire, on aime bien raconter cette histoire-là. Enfin, c'est André Joffre qui raconte ça. C'est que de Villepin est allé rendre visite à Angela Merkel juste après son élection, et puis lui discuter. Bon, c'est comme ça qu'André Joffre le raconte, mais bon. C'est le patron de Texol, pour ceux qui peut-être le connaissent. Donc, André le raconte comme ça. De Villepin aurait dit à Angela Merkel, maintenant que les Grünen sont sortis du gouvernement et que vous n'avez plus le SPD, tout ça, vous allez arrêter ces bêtises de subventionner le solaire. Et Angela Merkel, CDU, de droite, lui a dit, mais non, pas du tout, on va continuer. Et elle lui a expliqué pourquoi, la création de l'industrie, le fait qu'on va arriver, etc. Il est revenu convaincu, il a demandé à des gens, en particulier André, d'installer un système de tarifs d'achat à la française. Donc c'est comme ça qu'on a copié, entre guillemets, les Allemands. Quand on fait un truc comme ça, compte tenu de la baisse du prix, il faut que ce tarif d'achat il baisse en fonction du temps. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en France? Ça a marché, mais ça a tellement bien marché que ça a été un boom incroyable. Et qu'en plus de ça, c'est devenu une rente de situation. C'est-à-dire que pour les gens, ils faisaient plus ça pour la beauté du geste, pour lancer le marché et tout ça. C'était juste pour avoir une rentabilité financière. Donc c'était devenu une affaire financière. Donc on a dû mettre violemment, on a dû arrêter un peu violemment les choses. Mais le problème, c'est qu'en arrêtant violemment, on a un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain, quoi. En gros, c'est ça. On n'a pas su bien régler le potentiomètre dans cette histoire. Que va-t-il se passer derrière? Alors, le plus triste n'est pas tellement ça, c'est que on a, dans l'esprit des gens et dans l'opinion publique, on a décrédibilisé le solaire. C'est-à-dire, même pour les gens, pour votre maison individuelle, les tarifs ont bien baissé, mais compte tenu de la baisse des produits, c'est encore très intéressant. Mais les gens ont considéré que c'était quelque chose finalement qui n'était pas bien. Voilà. Donc, en plus, il y a eu une communication un peu spéciale qui a fait qu'on est reparti en arrière. Mais c'est une erreur, parce qu'à nouveau, les prix vont baisser, et puis. Et puis, à nouveau, la France ne peut pas s'éloigner de cette chose-là, parce qu'un jour ou l'autre, ça va revenir. Voilà ce que je peux dire sur elle.
Non, ce qui est frappant quand même, c'est que ce sont deux régions, vous me direz si je me trompe, la région Rhône-Alpes et les Pays de Savoie, je crois, chez vous, et la région Poitou-Charentes, chez vous, qui ont été à l'origine quand même de l'impulsion qui a été donnée à vos entreprises, plus que l'État lui-même. Ça, c'est à noter quand même, non?
Je dirais que, sur ce domaine des énergies renouvelables, et en particulier pour le solaire, on constate un peu la même chose en Allemagne, c'est que c'est une énergie qui peut être déployée à toutes les échelles, et très localement, et qui finalement a vocation à vivre localement, qui peut être installé d'ailleurs par, bien sûr, les composants doivent être fabriqués dans des usines qui sont assez lourdes, mais les gens qui les installent, ça peut être l'installateur du coin. Donc finalement, il y a des régions en Allemagne où ils ont décidé localement de devenir une espèce de région à énergie renouvelable. C'est des initiatives locales qui portent, je pense à Edgar Morin, c'est un peu ça. Finalement, on est aussi dans une révolution où quelque part on peut mettre en œuvre des choses, parce qu'une centrale nucléaire, ça se met pas, une centrale à fioul, ça se met pas en œuvre facilement, c'est très lourd, c'est un système où on va créer de l'énergie, on va l'envoyer très très loin en étoile. Là, on est dans quelque chose qui vient par le bas, quoi. C'est un peu différent. Et puis les sociétés, à nouveau, c'est un réseau de PME, PMI. En Allemagne, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille soit chez un installateur, soit chez un fabricant de matériel ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu culturellement, c'est rentré par ça. Et donc je ne suis pas complètement étonné finalement que ce soit plutôt les régions françaises qui ont porté un peu plus ce message et cette volonté que on va dire l'État centralisé, parce qu'on est dans quelque chose qui est assez décentralisé par essence.
Oui, encore que la région Rhône-Alpes est une région très industrialisée, alors que la région Poitou-Charentes est désindustrialisée pratiquement, alors que vous, votre but, c'est justement la réindustrialisation à un niveau évidemment pas très élevé, non?
Oui, tout à fait. Oui. Effectivement, l'une des missions du pôle des éco-industries est d'essayer de créer de l'industrie dans la région. Et c'est vrai que l'impulsion qui a été donnée par la région Poitou-Charentes, avec quand même 100 millions d'euros empruntés auprès de la Banque européenne et mis à disposition du développement du photovoltaïque, photovoltaïque en région Poitou-Charentes, c'était quelque chose d'important. Mais c'est vrai que les réductions de tarifs, etc., ont fait que les choses ont beaucoup freiné. Mais je crois que ce qui serait bon aussi, moi si j'étais dans la salle, je crois que nous avons parlé, mais je pense que nous n'avons pas répondu aux questions. Je pense que nous n'avons pas répondu aux questions que les gens se posent. Et puisque, si vous permettez, je vais essayer de les poser. Je ne sais pas si je sais répondre à tout. Il y a une première question. L'énergie électrique en France. L'énergie électrique en France, alors moi, je suis issu du monde du pétrole et je parle en TEP. Mais c'est pareil, hein, c'est une forme d'expression. Alors, en France, on a l'équivalent de 111 millions de tonnes équivalent pétrole sous forme d'électricité. Alors, ça fait 542 térawattheures. Moi, ça ne me dit pas grand-chose. Alors, on a ces 111 millions de tonnes. Alors, ça se répartit entre quoi? Ça se répartit entre de l'hydraulique, de l'éolien, du photovoltaïque, qui fait 14 millions de TEP. Ça veut dire 10%. Du thermique nucléaire qui fait 84 millions, donc vous voyez, c'est quelque chose d'important, c'est à peu près 40% de l'énergie en France. Et puis, du thermique classique, parce que ces centrales nucléaires, quand elles sont en route, bien sûr, ça ne se manie pas en jouant sur le curseur pour ralentir la production, etc. Quand c'est parti, il faut la supporter. Et donc, on est toujours un petit peu en dessous de ce qui est nécessaire. Et on fait un ajustement avec des centrales thermiques. Qui sont, alors je crois qu'il n'y en a plus au charbon en France, hein, alors que vous avez dans des pays comme l'Allemagne, les centrales thermiques charbon sont très développées, et donc ce sont essentiellement, je pense, ou des gaz, ou des fuels. On ne fait plus de fuel lourd à cause de la teneur en soufre. Donc voilà par rapport à l'électricité. Alors vous avez compris tout à l'heure quelle est l'importance si on doit avoir développé ou le photovoltaïque ou l'éolien. Alors le photovoltaïque, on le gère quand même un peu mieux, le vent peut-être un petit peu moins bien, et puis dans les moments où effectivement on n'a pas besoin d'électricité, il y a sur ces énergies renouvelables un problème de stockage. Alors, une solution a été proposée tout à l'heure, c'est le stockage sous forme d'hydrogène, qui est une solution élégante, puisque l'hydrogène, pour un chimiste que je suis, c'est la molécule, on dit tous les chimistes que l'hydrogène, c'est la molécule du troisième millénaire. On en a besoin pour énormément de réactions, et on peut faire avec de l'hydrogène, on peut faire à peu près tout, y compris, comme ça a été dit, refaire des carburants si on en avait envie, à partir de biomasse et d'hydrogène. Si c'est un hydrogène, il faut que ce soit un hydrogène renouvelable, si possible, et donc c'est quelque chose d'important. Alors, je pense que la question qui s'est posée, et je crois, j'ai vu dans la salle des gens, quand vous avez dit on a de la chance d'avoir l'énergie nucléaire, je crois que certains peuvent le penser, mais ça mérite quand même une petite discussion, parce que je pense que certains ne partiront pas de cette salle sans avoir au moins discuté de ceci. C'est vrai que si on fait une petite analyse de contexte, aujourd'hui, le nucléaire, certains s'en méfient, etc. Et je pense qu'une discussion qui serait intéressante, c'est est-ce qu'on peut s'en passer? Et si on peut s'en passer, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution? Est-ce que le photovoltaïque plus l'éolien est capable de remplacer les 80 millions de tonnes équivalent pétrole que nous consommons en électricité? Ça, c'est une question. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Les spécialistes du photovoltaïque, là, est-ce que vous pouvez faire 84 millions de tonnes équivalent pétrole avec un photovoltaïque? On ne parle pas du prix, on parlera du prix tout à l'heure. Hein.
Oui.
C'est
faisable. C'est faisable.
C'est quelle surface?
Alors, j'ai plus le calcul en tête, mais c'est une surface tout à fait gérable sur la France. C'est-à-dire, en couvrant à peu près les bâtiments, on aurait presque ce qu'il fallait. À peu près.
D'accord.
Donc ça, et avec des terrains inutilisables, on a même des idées à particulières de couvrir des parkings. Enfin, on a suffisamment, à mon avis, de surface pour faire ça. Le plus gros verrou qu'on va avoir derrière, c'est vraiment le problème du stockage à nouveau, hein, franchement.
C'est possible, c'est possible. Alors, non, mais attendez.
Oui.
Quand vous dites les maisons, moi, mon petit calcul que j'ai fait, si on voulait faire tout ça en photovoltaïque, c'est 2 millions de kilomètres carrés. La France en faisant 20 millions. C'est 10% de la France couverte.
Non.
Alors, si. Faites le calcul. Faites votre calcul. Combien vous faites au mètre carré de photovoltaïque?
Disons que si vous prenez quelque chose qui fait un kilowatt, enfin le soleil vous donne un kilowatt par mètre carré.
Il donne ça, mais vous faites que 10% de rendement.
On va faire 15%.
Allez, 15%. On va pas chiffonner pour 5%.
C'est 100 watts par mètre carré.
Mais 100 watts par mètre carré, c'est ce que vous allez obtenir. Oui. Non, mais je parlais de soleil, il vous donne un kilo.
Ah oui, non, mais le soleil, oui, c'est vrai, mais le rendement, on attend style là, pour arriver
watts,
à des rendements importants.
150 watts par mètre carré.
D'accord, 150 watts par mètre carré. Et donc, moi, j'en suis à, je reprends mes chiffres, alors je n'ai pas de machine à calculer, je suis très embêté, mais en nucléaire, je suis à 410 térawattheures. Ouais. Donc, par mètre carré, c'est vrai, mais alors ça donne quoi sur une année? Parce qu'on admet quoi? L'ensoleillement.
Milliers de gigawattheures.
Ah, bah oui, non, térawattheures, c'est beaucoup. C'est pour ça que je dis c'est 2 millions de mètres carrés. Je pense que ce calcul, on mériterait de le faire quand même. Moi, mon calcul est peut-être complètement faux, mais c'est ce que
moi, j'avais un calcul rapide, si vous voulez, pour remplacer un réacteur nucléaire de 1,2 gigawatt. Il faut 1700 éoliennes de 3 mégawatts. Avec les rendements, avec les points de fonctionnement.
Oui, il faudrait traduire ça en surface.
Il faut traduire tout ça en surface.
700 éoliennes, voilà. Où est-ce qu'on les met?
Tout à fait. Non, mais vous avez parfaitement raison. Mais c'est peut-être une conclusion.
J'ai lu quelque part que ces éoliennes dont vous parlez, ça couvrirait un département français.
Pour un
monsieur, là.
Attention.
Par du solaire thermodynamique, celui qui a le meilleur rendement,
oui.
Il faudrait couvrir la moitié de la Vienne.
Oui, mais bon, alors en plus, je ne vous conseille pas. D'abord, il n'a pas un meilleur rendement, ça c'est complètement faux.
Je veux dire, par rapport à un photovoltaïque.
Non, c'est faux. Je m'excuse, voilà. C'est faux. Le rendement d'un solaire thermodynamique est pas plus élevé que le solaire thermique. Et en plus de ça, vous allez pouvoir le faire fonctionner. Vous allez perdre tout ce qu'on appelle l'énergie diffuse du ciel. Donc, je crois pas. Faites le calcul, mais vous verrez
que c'est... Mais si, sur la base d'une centrale thermodynamique, celle installée en Espagne, la plus grande, par exemple.
Oui, tout à fait. Oui.
Je ne parle pas du solaire thermique aux chaudes sanitaires. C'est vrai que là, on va gagner dans un rapport très important.
Oui. Non, mais...
Et c'est celui-là qu'il faut...
Le chiffre que vous évoquiez, la centrale de Civaux, ouais, remplacée par la moitié de la surface de la Vienne, ça ne me surprend pas. Hein. Bah, c'est quand même quelque chose
malheureusement,
qui rejoint un petit peu... donc, c'est le 8... Oui.
Non, alors.
Je crois qu'on prend le débat d'une pas bonne façon. Je crois que l'énergie électrique, elle a une spécificité d'utilisation. Et je crois qu'il faut en tenir compte. Dans les térawattheures dont vous parlez, il y en a un nombre relativement important qui est utilisé pour du chauffage. Le rendement du chauffage est de 25%.
Non.
Et non, mais si, c'est la réalité.
Non, le thermique thermodynamique.
C'est la réalité.
Non, écoutez, le thermique thermodynamique, il fait tourner des turbines en vaporisant un gaz, etc. Et vous faites aussi de l'électricité.
Oui, mais on est d'accord. On
vous
est
êtes
d'accord,
à 60% de rendement.
Ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisation qu'on fait de l'électricité actuellement avec le chauffage électrique, c'est une aberration.
Ah, tout à fait.
Et donc, ça veut dire que...
Ah, oui, mais là, c'est
oui,
autre
mais
chose.
Là, vous parlez de quantité d'énergie qu'on consomme sans remettre en cause la façon dont on consomme cette énergie. Et donc, je veux dire, on ne peut pas raisonner comme ça. On ne peut pas raisonner comme ça, parce que sinon, effectivement, on montre effectivement qu'on ne peut pas se passer de nucléaire.
Tout à fait.
Mais si, mais je crois que c'est la démonstration auquel on va arriver concrètement.
Vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout.
Ben oui,
vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout. Je vous dis, est-ce qu'on peut remplacer? On va arriver, si on veut faire... Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout.
Ah ben on est d'accord.
Eh ben oui, justement, je dis, est-ce qu'on peut remplacer? À mon avis... On est arrivé à des quantités d'électricité produites qui ne sont pas celles dont on a besoin. Et donc, on est trop allé vers l'électricité. Mais si on répartit les énergies autrement...
Oui.
Mais je voulais arriver à cette conclusion-là. Je voulais qu'on en arrive en disant non, c'est pas possible. Donc, il faut rester au nucléaire. Bon, alors, est-ce que vous acceptez de rester au nucléaire?
Oui, ce que je voulais dire, rejoint un petit peu votre intervention, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas commencer par une étape en changement de comportement, quoi, de consommation?
Tout à fait. Voilà. Oui, mais c'est certain.
Ça me paraît évident. Hein.
Attendez. Discipline, s'il vous plaît. Pardon, parce que tout est enregistré.
Oui. Faut-il produire autant d'hydrogène pour faire des engrais?
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais il faut regarder quelle est la productivité à l'hectare pour tel type d'agriculture et autres. Une culture sans engrais, est-ce qu'on peut supporter à 100% sans engrais
au niveau,
mais niveau quelle est la surface à ce moment-là à mettre en œuvre? Oui, voilà.
Le thermique, le nucléaire.
Pas d'intervention comme ça, j'ai besoin de
Vous prenez des gens comme Pierre Rabhi, ils vont vous démontrer qu'ils ont des productivités bien meilleures sans engrais que d'autres personnes avec engrais. Donc, bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est, comme disait Edgar Morin tout à l'heure, c'est toute une réforme qu'il faut faire parce qu'il ne faut pas séparer l'aspect élevage de l'aspect végétal et il faut travailler en circuit fermé et il faut faire en sorte que les terres elles aient un coup une culture de lin, un coup des animaux dessus. Enfin, c'est toute la permaculture et je pense que Arnaud pourrait rajouter des choses là-dessus. Mais bon, c'est une réforme qu'il faut faire, une façon de travailler qui n'est pas du tout la même chose que ce que l'on connaît aujourd'hui, la métamorphose qu'il évoquait.
Je voulais juste préciser que tous les engrais n'ont pas besoin d'hydrogène.
On peut juste dire oui. Ah bon, excuse-moi, parce que
moi je voudrais insister sur le fait que je suis d'accord avec le monsieur, c'est qu'on prend toujours les débats à l'envers. Il y a toujours des idées extraordinaires qui arrivent. Les ingénieurs passent leur vie à ça. Et je pense qu'ils pourraient utiliser un peu de leur temps à réfléchir comment on pourrait économiser plein de choses. C'est-à-dire pas revenir à l'âge de pierre, hein, bien entendu, mais se dire ce dont on a besoin exactement et ce que l'on pourrait laisser. Et on verrait peut-être que les besoins forcément baisseraient si on était dans la sobriété. Et peut-être on trouverait des solutions moins coûteuses et plus rassurantes pour la population.
Oui, mais enfin... Les chercheurs sont indispensables quand même, oui. Pas, on va nier cela. Ouais, bon. Alors, pour en revenir juste une petite insiste sur les engrais, la production, puisque nous sommes dans une région agricole, autrefois, quand il n'y avait pas d'engrais, à l'hectare, ils produisaient 15 à 20 hectos de blé, par exemple. Aujourd'hui, c'est 100 avec les engrais. Alors peut-être qu'il y a peut-être une exagération et qu'il y a, dans le choix des engrais, oui, un vrai problème. Les engrais biologiques sont indispensables. Autrement, vous avez tout le pan de l'agriculture française et ailleurs qui meurt. Là, y a pas de problème. L'alimentation. C'est un autre problème, à mon avis, que celui qui nous occupe maintenant. Parce que là, ce sont des solutions alternatives que vous ont proposées quand même, et qui sont d'avenir.
Alors, si on parle de solutions alternatives, il y a d'autres pays... qui sont proches de chez nous et qui ont fait des choix. Par exemple, repartir sur des centrales pour faire... Alors, il y a l'idée de se dire, on n'a peut-être pas besoin de la même quantité d'électricité parce que ça a été... C'est vrai que le nucléaire, à un moment, a été l'électricité facile. Puis, en fait, c'est une électricité pas chère. J'avais quand même regardé un petit peu ce que coûtait l'électricité. Bon, pardon, oui. Mais il faut que je regarde d'abord mes feuilles. Donc, d'après ce que j'ai entendu dire, alors c'est peut-être complètement fou, hein, l'éolien coûterait 4 fois plus cher que le nucléaire en électricité. Le photovoltaïque, alors j'ai un chiffre affreux, mais je vais citer qui l'a utilisé, c'est Éric Besson, donc c'est un ministre. Ah bah c'est un ministre, hein, c'est un ministre. C'est il dit que c'est 100 fois plus. 100 fois plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre ministre de l'Industrie?
Qui dit quoi? Il dit quoi? Que c'est 100 fois plus cher?
Non, mais je ne cherche pas à lire, madame. Je défends personne. J'attaque personne. Je cherche justement. Bon. Alors, je vous en prie.
Non, le rapport, il est à peu près actuellement, j'allais dire, d'un facteur entre 2 et 3.
enfin trois, je dirais. Évidemment, ça dépend de qu'est-ce qu'on compte dans le prix du nucléaire, mais bon. Évidemment, s'il le compte, il le compte à 50 euros le mégawattheure. Bon, je ne sais pas si c'est ce chiffre que vous avez.
Oui, à peu près, oui.
Ouais, bon, le photovoltaïque, on arrive maintenant à des chiffres qui sont de l'ordre de 200, donc on est un facteur 4 au maximum. Mais en fait, c'est moins dans la réalité. Bon. Et ça va baisser, donc c'est, le facteur 100, c'est complètement aberrant.
Il faut comparer. Alors,
j'ai refait, entre parenthèses, j'ai refait le calcul, enfin de tête comme ça, je me suis peut-être un peu trompé. On arrive à quelque chose comme effectivement 3 ou 2 ou 3 000 km carrés, ça paraît beaucoup, mais c'est un carré de 50 ou 60 km par 60 km, et c'est moins d'un centième du territoire français. Hein. Vous refaites le calcul.
Ça fait la moitié d'un département.
Alors c'est grand. C'est grand, mais regardez les surfaces artificielles et vous verrez qu'il y en a plus que ça. Donc, donc c'est beaucoup, mais c'est faisable.
Et un investissement égaux, à peu près ?
L'investissement, oui, l'investissement est élevé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais il est en train de... non, il est encore plus cher, oui, pour l'instant.
Alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote. On a été contacté par plusieurs sociétés. Il y a un gros projet également. L'idée, c'est venu d'abord des Allemands. Pourquoi pas produire de l'électricité en plein Sahara ? C'est là où il y a le plus de soleil. Et donc, il y avait un projet qui a essayé de démarrer. C'est de faire des centrales de production d'énergie électrique très importantes. Malheureusement, l'électricité, il faut la transporter où sont les clients. Et les clients, c'est l'Allemagne. Et il y avait un projet de faire une ligne en courant continu, parce que c'est là où on a le moins de pertes, en très haute tension courant continu, qui aurait traversé la Méditerranée, remonté par l'Italie pour alimenter l'Allemagne. Le problème, c'est qu'on perd 3% par 1000 km. Donc il y avait déjà une perte en ligne qui est beaucoup moins, bien sûr, que sur la très haute tension. Mais ce projet est mort dans l'œuf à cause de ça. Alors nous avons été recontactés par les Émirats, parce que les Émirats ont des projets à peu près identiques. On est allé plusieurs fois là-bas. Le projet, vous avez entendu tous parler de la ville de Masdar. Masdar, c'est une grande ville de 140 000 habitants. Elle a juste démarré maintenant. Je ne sais pas s'ils vont aller plus loin, parce qu'il faut trouver les habitants. Ils voulaient mettre 140 000 habitants dans le désert. Malheureusement, je ne sais pas qui va aller s'installer dans le désert des Émirats. Et cette ville devait être totalement autonome, avec des alimentations à la fois photovoltaïques, thermodynamiques, et le stockage était prévu le stockage à l'hydrogène. Ils sont même allés plus loin en disant, on va aller faire un projet avec vos conteneurs, on peut nous faire des gros conteneurs pouvant transporter une tonne d'hydrogène donc dans un conteneur de 40 pieds. Donc les bateaux, les conteneurs, on peut mettre de l'ordre de 7 à 8 000 conteneurs. Donc on peut transporter 8 000 tonnes d'hydrogène et on viendra vous alimenter sous forme d'hydrogène solide en Europe. Ce sont des projets faramineux, c'est des sommes énormes. Pour l'instant, ce sont que des projets sur le papier. Mais la production dans le désert est toujours d'actualité.
Oui, mais enfin, moi, je crois, et je rejoins ce que monsieur disait tout à l'heure, qu'on est en train de dériver. Parce que, en fait, moi, je ne crois pas du tout que ça va se passer comme ça. La solution, en fait, et la solution, c'est un peu comme, je dirais, ça va être un mixte. C'est forcément un mixte. Il n'y a pas une solution qui va remporter sur les autres. Là, c'est un leurre. La bonne solution, c'est un mélange. Et c'est un mélange de quoi ? C'est un mélange de plusieurs sources d'énergie. Premièrement, et pas forcément d'ailleurs un abandon immédiat des sources existantes. Hein. Ça prend du temps de remplacer même les sources existantes, même celles qui, entre guillemets, sont pas terribles comme le nucléaire. Mais c'est avant tout de la sobriété énergétique. On peut beaucoup, beaucoup gagner à confort égal sur la consommation énergétique. L'exemple que vous citiez sur le chauffage électrique, parce que non seulement on utilise de l'énergie électrique pour se chauffer, par de l'effet Joule, ce qui est une aberration. Mais en plus, on a globalement très mauvais indice en France sur l'isolation des bâtiments, hein, enfin sur la consommation électrique dans les bâtiments. Donc il y a vraiment beaucoup à gagner. Et après, ça va être un mix énergétique, par définition, pour plein de raisons. Et donc,
imaginer qu'il va y avoir une solution et que quelque part on va... Alors c'est bien d'échanger de l'électricité avec les pays du Sud, ça va être très avantageux pour tout le monde, ça va être bien pour la paix dans le monde, tout ce que vous voulez, et il faut le faire. Mais n'imaginons pas que, du coup, les fameuses surfaces dont on parlait tout à l'heure, photovoltaïques ou solaires thermodynamiques, parce que là, on peut faire du solaire thermodynamique à bas coût éventuellement, enfin, faut voir, parce que le thermodynamique, il a moins la capacité de baisser ses coûts. Et ramener toute l'électricité ici, bon, on peut le faire partiellement, mais de tout faire notre électricité, de remplacer nos centrales nucléaires, à mon avis, c'est un leurre. Bon, ça, mais je pense que, voilà. À nouveau, c'est un peu comme dans la nourriture, vous ne mangez pas que de la viande ou des pommes de terre. Vous avez besoin d'un peu de tout pour manger. Et je pense que ça va être un peu pareil pour l'énergie.
Est-ce que vous voyez, alors, pas de disparition du nucléaire avant longtemps ?
Non, le nucléaire, on ne pourra pas le faire disparaître très, très rapidement, mais on peut décider de s'en passer, et c'est possible de s'en passer. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui reposent sur le nucléaire, donc il y a beaucoup de... Alors, ils font du charbon, vous allez me dire. Bon, mais... OK, c'est pas forcément bon, mais les Allemands ont des... Alors, bon, à nouveau, c'est contestable, et ils vont avoir du mal de le faire, mais il y a certaines régions qui se font fort d'avoir un mix entièrement renouvelable... Et à nouveau, avec beaucoup d'efficacité énergétique, qui serait un mix renouvelable, c'est-à-dire un mix éolien, solaire et biomasse. Bon, parce qu'effectivement, quelque part, il faut une énergie de stock. Alors, on pourra aussi faire peut-être du stockage, etc., si les prix baissent, etc. On pourra faire un mix, on ne fera pas que ça. Il ne faut pas faire, faut pas imaginer qu'on va tout stocker ce qu'on a fabriqué dans la journée pour l'utiliser le soir. Parce que là, voilà, il y aura un mixte à nouveau. Et je pense qu'en plus de l'échange avec, bien sûr, du trading en matière d'énergie d'un pays à l'autre. Parce que vous prenez le solaire ou le vent, il y a toujours une dépression sur l'Europe. Il y a un endroit où ça souffle et où il y a un endroit où ça ne souffle pas. Il y a un endroit où il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Ça, c'est lié à la taille des dépressions et des hautes pressions. Donc, moi, je pense qu'on va être le futur de l'humanité. De toute façon, il va revenir au renouvelable. De toute façon, c'est par définition. Donc, il va bien falloir qu'on se fasse un mix renouvelable. Dans 100 ans, on sera dans un mix renouvelable. Et il faut imaginer comment on va y arriver. Voilà. Que faire d'autre ? C'est pas avec l'uranium, ce sera pas, je veux dire, avec le fossile, il n'y en aura plus. Donc, alors on peut faire un peu de géothermie. Bon, j'en sais rien, mais bon, il ne faut pas se leurrer à nouveau. Donc, on va revenir au mix énergétique du 18e siècle, le vent, le soleil. Et la biomasse, voilà, c'est comme ça.
Et j'ai eu la chance de participer à plusieurs conférences cette semaine. Et l'autre jour, il y a quelqu'un, comparé à notre État, on est les héritiers du colbertisme. C'est-à-dire que l'État central, qui décide de tout, qui pense à la place du peuple, etc., etc. Enfin, il y a des tas de choses qui fonctionnent. Et il est vrai qu'on marche un peu sur la tête quand même. Et sans doute que le tout nucléaire, et j'en suis convaincu, n'est pas la solution. Effectivement, ce mixte, et c'est la métamorphose vers laquelle il faudrait aller, c'est sans doute un petit peu ce qui est en train de se dire en ce moment. L'autre jour, j'ai cité aussi un petit morceau, enfin, par le temps qui était pris, M. Barbier a fait une approche sur la biomasse et des micro-industries de proximité. Qui était très intéressante. Manque de chance l'autre jour, c'était un petit peu court, j'étais un peu frustré. Et puis, soir, si le débat dévie un petit peu, je serai encore frustré. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse lui redonner la parole.
D'accord. Il y a connivence entre vous deux, non ?
Oui, je vais revenir un petit peu en avance sur le débat. Quand vous comparez les prix des surfaces, l'énergie nucléaire, vous prenez ça à la source. Mais si par exemple l'énergie nucléaire perd 90% au cours du transport, et si en comparaison le photovoltaïque peut être utilisé directement, il faudrait diviser il faudrait en tenir compte, je suppose.
Oui, on ne perd pas 90% au transport.
Non, mais c'est bon, j'exagère pour qu'on se rende compte de ce que je vais dire. Autre question sur le prix du nucléaire. Je crois que la Cour des comptes a actuellement une mission pour estimer le coût du nucléaire. Donc, on peut peut-être attendre les résultats. Mais il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est qu'on avance des prix sur quelque chose, par exemple, d'une part à la source, toutes les conséquences de l'extraction de l'uranium, quand les Africains viendront nous demander des comptes sur les gens qui seront malades, il faudra peut-être le compter. Et dans l'autre sens, surveiller des déchets pendant 100 000 ans, combien ça va coûter ? Donc, je m'étonne toujours qu'on donne un prix sur le nucléaire. Je me demande quel est l'économiste qui est capable de dire combien ça va coûter.
Oui, sans aller aussi loin, le démantèlement n'est pas intégré non plus dans le coût. Alain.
Je voudrais relever un petit paradoxe. Là, on a le président du pôle des éco-industries qui se fait le défenseur de l'énergie nucléaire. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en face de lui, donc, on a un représentant du CEA, qui explique que l'énergie nucléaire, c'est pas forcément.
Non. Je peux pas laisser dire ça. Ce que j'ai voulu amener à dire, c'est est-ce qu'on peut se passer du nucléaire ? Si on peut se passer du nucléaire, par quoi est-ce qu'on peut le remplacer ? Et donc, moi, ce que je reconnais, c'est que maintenant, y compris monsieur a dit, on peut se passer du nucléaire, donc j'en suis content. Par quoi on peut le remplacer ? Il est sorti que peut-être qu'on pourrait utiliser 50% d'électricité en moins, parce que c'est vrai que cette énergie facile, et cette énergie qui, effectivement, était une énergie franco-française, qui ne nécessitait pas de sortie de devises, qui, etc. Et les uns les autres, on l'a compris à un moment. Eh bien, le nucléaire a grossi et la bête est devenue très grosse. Et la bête est devenue grosse, mais aujourd'hui, parce que j'avais prévu de parler un tout petit peu du contexte.
Oui, mais c'est moi qui ai pris la parole. Là. Excuse-moi, c'est moi qui ai.
Non, tu prends la parole en disant non. Tu reprendras la parole quand j'aurai fini d'expliquer ce que je voulais dire.
C'est le problème,
parce que j'ai laissé
ça
parler
dure
tout
très
monde,
longtemps.
Et finalement, un de mes collègues me dit non. Ou alors c'était pas sous forme de plaisanterie que tu as dit ce que tu as dit.
Écoute, j'ai pas fini ma phrase donc.
Eh bien, vas-y, finis là.
Et je remarque quand même que le directeur de l'INES, qui lui-même est un agent du CEVA, dit qu'on peut se passer de l'énergie nucléaire. Et il corrige quelques chiffres quand même qui sont véhiculés par beaucoup de gens. Et tu as véhiculé un chiffre qui, à mon avis, effectivement, n'est pas juste du tout. Il l'a corrigé. Eh bien, il dit des conneries, le ministre de l'Industrie. Il dit des mensonges. C'est pas 100, c'est 3. Bon, après, il y a une autre question. Vous comparez l'énergie photovoltaïque produite par le photovoltaïque avec l'énergie nucléaire. Là aussi, Jean-Pierre Joly a dit les chiffres ne sont pas bons. La dame l'a dit à l'instant, la Cour des comptes travaille dessus. Les chiffres ne sont pas bons, tout le monde le sait. L'énergie nucléaire coûte beaucoup plus cher que ce qui est annoncé. Oublions ça un instant. Combien coûte l'énergie photovoltaïque ? Combien coûte la production d'énergie photovoltaïque ? Eh bien, il y a un chiffre très simple aujourd'hui. Jean-Pierre Joly l'a dit, les modules photovoltaïques ont beaucoup baissé. Ces 5 dernières années, ils ont été divisés par presque 5, hein, peut-être même davantage. Donc le coût des systèmes photovoltaïques aujourd'hui est très très bas. Et le coût de l'énergie électrique produite par les énergies fossiles dans beaucoup d'endroits est passé en dessous, au-dessus de ça, on ne l'a pas dit. Voilà ce qu'il faut dire. Par exemple, à Naples aujourd'hui, et on est à la parité. C'est-à-dire que l'énergie produite par le photovoltaïque coûte moins cher que l'énergie produite par les énergies fossiles. C'est vrai en Bavière. C'est vrai l'année prochaine en Bavière. Et ce sera vrai en 2015 à Montpellier et dans toute la partie sud.
C'est vrai dans les îles françaises, par exemple.
Voilà.
Déjà, tu vois,
il y a une idée qui est véhiculée que le photovoltaïque, c'est 100 fois plus cher. C'est pas vrai du tout. C'est complètement faux. On est à la parité en Italie. On est à la parité dans toute l'Espagne aujourd'hui. Et on sera à la parité dans le sud de la France d'ici 2 ou 3 ans. Voilà ce que j'allais dire.
C'est bien que ça soit dit aussi clairement. Il y a monsieur qui veut parler là-bas.
Une question donc qui s'adresse plutôt à M. Jahan. Je suis persuadé, moi aussi, effectivement, que ce sera un mix demain des énergies renouvelables, que le problème par rapport à ça, c'est le problème du stockage. Donc, moi, je connaissais le stockage par la biomasse. Je découvre ce soir donc, le stockage donc, par l'hydrogène solide. La question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez utilisé tout à l'heure la question, enfin, dans le début de votre exposé, la question de sites industriels. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous avez besoin de grosses unités ou de petites unités ? Parce que je suis convaincu aussi que demain, on va rechercher localement avec les énergies renouvelables, la suffisance énergétique locale. Et donc, ça veut dire que on a besoin de grosses unités pour faire ça. Ça veut dire que ça ne m'intéresse pas trop. En revanche, si ça peut être des petites unités, je trouve que ça peut être quelque chose de très intéressant.
Je peux juste en rajouter une couche, comme ça vous répondrez à deux questions à la fois. Je suis très intéressé par la notion de coût. Vous avez cité une étape de traitement thermique à 340 degrés, oui. C'est ça. Quel est l'impact sur le coût de production? Et la dernière question, c'est, je ne suis pas sûr que tout le monde a compris ce qu'on faisait pour déstocker l'hydrogène.
Je vais vous expliquer. Je réponds d'abord à la première question. En fait, l'application, elle est à la fois les deux. C'est-à-dire, on a des applications massives de l'hydrogène. D'ailleurs, les plus gros producteurs de CO2 qui sont les sidérurgistes, actuellement travaille beaucoup sur la pré-réduction du minerai de fer par l'hydrogène pour remplacer le charbon. Hein, ça veut dire que quand on produit une tonne d'acier, on produit 2 tonnes de CO2. ArcelorMittal produit 120 millions de tonnes par an. Vous voyez la quantité de CO2. On a des contacts, nous, avec les Coréens qui veulent acheter des systèmes. Eux produisent 50 millions de tonnes, c'est 100 millions de tonnes de CO2, sachant que la pénalité d'environ pratiquement 20 dollars à la tonne, ça fait 2 milliards de dollars chaque année de pénalité CO2 par sidérurgiste. Vous voyez l'importance donc que prend la production massive. Par contre, je reviens sur votre remarque aussi sur la production, je dirais peut-être domestique. Alors les Suisses sont partis, on est allé, Daniel Fruchard et moi, on est allé visiter une société en Suisse qui a été fondée par le créateur de la Swatch, donc Hayek, et Hayek a décidé de faire un système plus modulaire au niveau de la villa, du petit immeuble, et en se disant dans son idée... Chacun va devoir produire son énergie. Donc on met des panneaux photovoltaïques, on met un petit électrolyseur, on stocke comme on peut l'hydrogène. Et cet hydrogène, on l'utilise sous forme électrique, mais de façon intelligente, sachant qu'une pile à combustible, à ce moment-là, on peut utiliser des piles à combustible. Ces piles à combustible peuvent réalimenter de l'électricité, mais le rendement d'une pile à combustible... Ben malheureusement, c'est 50%, mais c'est quoi les autres 50%? Ben c'est de la chaleur. Ça veut dire qu'on utilise la chaleur produite par la pile à combustible qui sort de la chaleur à 80 degrés, qui est inutilisable sinon à faire du chauffage de la maison. Donc, ce sont toutes ces idées-là, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, on aura un mix complet de ces applications. Alors, quand au côté technique, en fait, on a nous développé deux types de réservoirs. Un réservoir qu'on appelle adiabatique, c'est-à-dire que la chaleur, lorsque on fait un stockage de l'hydrogène dans le réservoir, ça développe une forte exothermicité, c'est-à-dire ça a une réaction et on provoque de la chaleur. Eh bien, au lieu de gaspiller cette chaleur, on a mis au point un système où on fait fondre un système de ce qu'on appelle les matériaux à changement de phase, sont donc des métaux. On a mis au point un alliage métallique qui a une très bonne conductivité et qui fond à la bonne température avec un nœud technique à la bonne température, c'est-à-dire qui conserve toujours la même température dans le réservoir. Et comme on fait une réversion rapide, si on fait par exemple sur du photovoltaïque du jour-nuit ou à la limite le lendemain, la quantité de chaleur qui est stockée dans le réservoir restant dans le métal liquide qui, en se solidifiant, va rendre cette chaleur. Alors, il y a un tout petit appoint électrique, mais très, très, très minime. Et on a un rendement de stockage qui est, pour les gros réservoirs, de l'ordre de 90-92%. Vous voyez, donc, très peu de pertes au niveau du stockage. Alors, ces applications-là, pour le domestique, moi, j'y crois aussi. Ça veut dire que, est-ce qu'un jour, chacun ne devra pas produire sa propre énergie pour son véhicule, on peut aussi stocker pour sa voiture. Je pense que c'est des idées aussi à développer. On est actuellement sur un projet également, vous savez que le gaz naturel, on peut augmenter son indice, son pouvoir calorifique en y ajoutant de l'hydrogène. Moi, je me souviens quand j'étais petit, dans les années 50, on avait un gazogène dans la ville. C'était quoi le gazogène ? Ben, on produisait du CO qu'on mélangeait, donc on faisait du gaz avec du charbon et de l'hydrogène. Bien sûr, c'était un mélange CO-hydrogène, extrêmement dangereux, bien entendu. Et bien, c'était le gaz de ville. Le gaz de ville, quand on disait le gaz à tous les étages, c'était le gaz de ville. Alors, donc, actuellement, on a des idées, on travaille avec un gros gazier. Ça va se faire sur la région nord à Dunkerque, où on va alimenter des bus qui vont marcher au gaz naturel, dopé à l'hydrogène, c'est-à-dire on va prendre les énergies renouvelables, le photovoltaïque qui est produit dans le coin, ou bien le vent, ils ont beaucoup d'éoliennes dans le nord de la France, au bord de la mer à Dunkerque, et on va faire de l'hydrogène vert. Et ça veut dire qu'on va reverdir un peu le gaz naturel, ça veut dire qu'une tonne de gaz naturel va produire moins de CO2. Et il y a des applications qui vont se faire aussi sur des groupes d'immeubles, de certains immeubles qui vont avoir du gaz naturel dopé à l'hydrogène. On augmente le PCI et on diminue la quantité de CO2. Toutes ces idées-là, vous voyez, c'est donc un mix complet d'énergétique. On n'abandonnera pas le gaz naturel comme ça, mais on peut l'améliorer, produire moins de CO2 en mettant de l'hydrogène, mais un hydrogène vert, pas produit avec d'électricité et avec du charbon, ça ne sert à rien. L'idée aussi de mettre des piles à combustible dans des véhicules tout électrique en produisant cet hydrogène avec ce que je vous ai expliqué avec du gaz naturel, vaut mieux mettre un bon moteur à combustion interne avec un rendement tel qu'il a et brûler directement du gaz naturel. On produit moins de CO2. Donc pourquoi passer par la voie hydrogène en disant ben, ma voiture ne pollue pas? C'est faux parce que l'hydrogène, lui, pour le fabriquer, on va fabriquer 10 tonnes ou 12 tonnes de CO2. Par tonne d'hydrogène. Enfin, voilà l'explication.
Plus que le gaz naturel, qui est quand même un carbone fossile, il y a du carbone qui est beaucoup plus naturel, qui est le biogaz. Et ça, c'est sûr qu'on ne l'emploie pas assez. Et puis, on est capable, si vous avez de l'hydrogène, qui est un hydrogène issu d'une énergie verte, c'est-à-dire venant d'une électrolyse qui vient d'une éolienne, etc., on est capable de refaire réagir du gaz carbonique, du CO2, avec de l'hydrogène pour refaire du gaz, je dirais du biogaz, mais du biogaz de synthèse chimique, mais qui est alors là, qui est totalement renouvelable. Donc effectivement, c'est ça que j'aurais aimé qu'on puisse discuter un petit peu plus ce soir. Je suis confus si je me suis mal exprimé. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, et je me suis un petit peu fâché, même mon collègue n'avait pas compris, et pourtant je le connais, il est intelligent quand même. Et donc il n'avait pas compris ce que j'étais en train de faire. En réalité, ce que je voulais dire, parce que j'ai l'impression que tu nous attends, pourquoi? Parce que on... Ah d'accord. Bon, depuis tout à l'heure, je te vois là, je dis peut-être qu'on parle trop. Ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il y a quelque chose, on a parlé essentiellement de photovoltaïque, de l'éolien, on n'en a pas parlé beaucoup, on a parlé beaucoup du nucléaire. Il y a une question que je voulais poser. Il y a des pays à côté de chez nous qui sont en train de dire eh bien, on va reprendre du charbon pour faire de l'électricité et on va séquestrer le CO2. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est-à-dire qu'on va réinjecter le CO2 dans la terre. Alors les gens qui sont en train de travailler là-dessus, ce sont des gens bien, et alors ils disent on sait que notre planète va se refroidir. Un jour, nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants, quand il fera trop froid, vont réinjecter ce CO2 dans l'atmosphère pour réchauffer la planète. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? C'est une connerie. C'est une connerie, hein. Ouais. Non. Alors, moi, je pense que la séquestration, actuellement, en France, on est en train de mobiliser des quantités d'argent sur la séquestration qui sont... C'est faramineux, hein, ce qu'on est en train de faire. Hein. On dit on va réinjecter ça dans les roches, etc. Moi, ce qui me fait peur, enfin, de la séquestration du CO2, c'était... On a eu quelques exemples en Afrique où il y a eu des relargages de CO2 sur les lacs, je me souviens plus très bien... Non, c'était du CO2. Et que toutes les populations qui vivaient auprès du lac, parce que c'était là qu'il y avait de l'eau et qu'ils pouvaient cultiver un peu, instantanément, tout s'était tué. Hein. Et je pense que ça, c'est dangereux. Et je pense que ça, il faut s'en méfier, parce qu'il faut se méfier des vraies mauvaises idées aussi. Hein. Effectivement, moi, je devais conclure, il y a quand même quelque chose qui est important et qui est très naturel, c'est que le flux d'énergie qui est capté par la photosynthèse sur Terre représente 10 fois plus d'énergie que d'énergie que nous consommons, alors qu'on en consomme beaucoup trop. Et j'avais un autre chiffre que j'ai cité hier dans une conférence. Actuellement, on consomme en énergie, et ça va aller dans votre sens, 8 milliards 600 millions de tonnes équivalent pétrole, et les êtres humains, s'ils mangeaient tous à leur faim, avec les 2500 kilocalories dont nous profitons, nous, ici, il ne faut que 700 millions de tonnes équivalent pétrole. Et j'exprime les calories en tonnes équivalent pétrole, comme toujours. Donc, vous voyez, il y a un facteur 15 entre l'énergie qu'on utilise, je ne sais pas pour quoi faire, sans doute pour notre confort, je ne sais pas quoi, et l'énergie qui est nécessaire pour manger. Et aujourd'hui, on dit, mais ces 7 milliards d'êtres humains, on ne peut pas les nourrir. Ils sont beaucoup trop nombreux. Et en réalité, on gaspille, comme vous le disiez, 95%. Enfin, on gaspille, on en a besoin sans doute. Mais je suis sûr que...
On en a besoin. Enfin, je suis tout à fait d'accord à ce que vous venez de dire. Hein. Et on en a besoin. À nouveau, ce n'est pas d'énergie qu'on a besoin. C'est de satisfaire un certain nombre de besoins, entre guillemets, de confort ou de... etc. Je veux dire, nous, on est assez frappés parce qu'on a une petite branche d'activité. Hein, ce n'est pas beaucoup de personnes chez nous qui travaillent sur ce qu'on appelle le solaire autonome, hein, c'est-à-dire l'électrification rurale ou tous les systèmes autonomes. Alors, typiquement, on a un exemple récent avec une société française. On a mis au point, vous savez, les panneaux à messages variables sur autoroute. On a mis au point donc une version photovoltaïque autonome avec batterie. Alors, désolé. non, je plaisante. Et donc, mais la première chose qu'on a fait, c'est chaque fois qu'on attaque ces problèmes-là, on dit on va faire la même fonction en diminuant la consommation énergétique. C'est pas possible ce qu'on peut gagner. Une gabegie d'énergie. Quand on réfléchit fondamentalement, tout ce qu'on peut gagner, parce qu'effectivement, pour donner un chiffre, là, j'avais le chiffre, on a à peu près chacun. On utilise 7 chevaux, enfin si on traduit les chevaux, alors c'est pas des tonnes équivalent pétrole, mais c'est les chevaux vapeur d'autrefois. On a à peu près 7 ou 8 chevaux, chaque personne à sa disposition en termes d'énergie, 8 chevaux qui travaillent pour lui toute la journée, enfin l'équivalent. Donc imaginez de dire à vos arrière-grands-parents qui allaient, enfin vos arrière-grands-parents qui vivaient à l'époque du cheval, qu'ils allaient avoir 8 chevaux pour eux tout seuls, pour une seule personne. Ils vous auraient traité de fou. Et en fait, je pense que vraiment la sobriété énergétique, c'est le vrai enjeu. C'est l'enjeu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, parce que moi, je suis assez confiant sur le génie humain. On ne peut pas faire des choses très modernes. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner à l'âge de pierre. Parce que souvent, c'est ce que nous est reproché par un certain nombre de personnes. Vous allez nous faire retourner à l'âge de pierre. Non, je pense que c'est possible d'assurer le même confort, les mêmes usages, de faire travailler ces machins-là. Mais on peut aussi faire des progrès, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi pour la consommation énergétique.
Il y a des petites éoliennes individuelles que vous soutenez, je crois, monsieur Barbier. Alors, ça donne quoi, ça?
Ça donne une certaine indépendance. Ça donne, alors, je ne me souviens plus exactement ces petites éoliennes. Combien est-ce qu'elles fournissent déjà, les Noveoles, là? C'est 3 kilowatts, oui, c'est ça, oui. Et c'est à peu près suffisant pour une maison, quoi. Une personne, oui. Ouais. Enfin, une personne, une maison, je voulais dire, excusez-moi. Un foyer. Il faut qu'il y ait du vent, etc. Mais enfin, on a des éoliennes.
Derrière, c'est le problème du stockage.
Et ben voilà. Donc, c'est le stockage. Alors, effectivement, faire de l'hydrogène à la maison, c'est peut-être pas facile quand même. Moi, je ne vous le conseillerais pas quand même.
Alors, je dois dire quelque chose aussi sur l'hydrogène. On est le seul pays européen. Ça veut dire que dès l'instant où vous êtes producteur d'hydrogène, il vous faut une autorisation préfectorale. On est dans un système de règles en France, alors que les Allemands, les Italiens, par exemple, les Italiens utilisent tous des chalumeaux à l'hydrogène parce qu'on a le droit de se promener avec son petit générateur à hydrogène. En France, dès que vous faites les 10 ou les 50 premiers grammes d'hydrogène, vous êtes soumis à déposer un dossier à la DREAL pour avoir une autorisation préfectorale. Alors on est en train de... On travaille beaucoup, nous, dans l'hydrogène pour changer toute cette régulation, cette normalisation.
C'est pour ça qu'on n'est pas prêt d'avoir de l'hydrogène dans nos voitures. Hein. Là, ça va être difficile.
En Allemagne, c'est permis.
Bon, il y a une chose qui... Vous parliez des piles à combustible. Il y a une chose dont vous parliez des piles à combustible, mais on n'entend plus beaucoup parler actuellement. ça commence à se...
Les piles à combustible, ça marche bien, sauf que ça coûte une fortune. D'accord. On est à 1 000 euros par kilowattheure. Une pile à combustible, ça tourne aux 1 000 euros kilowattheure. Quand vous savez que dans une voiture, au moins, il vous faut 15 à 20 kilowattheures, où on va avec une pile à combustible à 20 000 euros dans la voiture, il faut oublier.
Voilà, c'est un objet de luxe. Mais ça contient du platine, par contre.
Ouais, une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure de photosynthèse et ça va revenir sur l'hydrogène aussi. Il y a des projets qui ont été développés de production d'hydrogène, je pense que vous le savez très bien, avec des algues qui produisent directement par photosynthèse et en combinant de l'eau directement du dihydrogène.
Oui.
Où est-ce que ça en est en fait, ces projets-là, qui auraient un rendement théorique de 100%?
Non, pas tout à fait, mais disons que le problème de cette production, c'est surtout développé en Asie. D'ailleurs, les Coréens sont très avancés dans cette production-là. On a de la recherche au CEA. Au CEA, ils ont un cas d'arrache. Ils font cette recherche en France. Pour l'instant, ce n'est qu'au niveau laboratoire. Ce que je sais, c'est alors nous, on est bien sûr attentifs parce que nous, on peut stocker, bien entendu, cet hydrogène puisqu'on stocke sans pression. On n'a pas besoin de pression, alors que dans les autres stockages, il faut des compresseurs pour mettre l'hydrogène dans les bouteilles. Donc, on stocke, nous, directement la pression de l'électrolyseur.
Je suis moins au courant. Je connais effectivement des algues qui sont réputées pour pouvoir faire ces productions d'hydrogène. Mais le gros problème, c'est que ces algues, il faut les nourrir. Et il faut les nourrir avec des jus sucrés. Et donc, moi, avec des jus sucrés, je vous fais de l'hydrogène sans passer par les algues. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Vous savez, on voit des tas de miroirs aux alouettes aussi. On lit un truc, on se dit, ah, mais ça, c'est formidable. Il y a effectivement une compagnie qui a... Vous avez vu tous ces articles dans les journaux qui montrent des espèces de grands tubes transparents avec des algues dedans. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on peut faire pousser les algues, mais il faut booster parce que le soleil, à lui tout seul, n'est pas suffisant. Donc, on a à côté des lampes. Donc, il vous faut des lampes pour pouvoir faire pousser les algues. Et je ne sais pas si les algues qu'on récupère sont capables d'alimenter en électricité les lampes. Donc, vous voyez, il y a des tas de trucs, mais c'est peut-être ce qui était dit tout à l'heure. Il y a plein d'idées qui partent de partout. Il faut peut-être toutes les remettre sur un site, tout brasser, tout ça, que ce soit des sites où on puisse s'exprimer les uns les autres. Alors, je ne sais pas, je suis sûr que dans les chercheurs, il y en a qui sont foncièrement et spontanément honnêtes. Il y en a d'autres qui cherchent à tout moyen pour trouver de l'argent et qui sont prêts à vendre n'importe quoi. Et j'en ai vu un qui, lui, faisait la même chose, faisait non plus des algues mais des champignons, on n'aura jamais assez de surface exposée au soleil pour produire des champignons qui pourraient nous amener au carburant ce qu'on a besoin, donc moi je vais le faire dans des grandes cuves où il n'y aura pas de soleil, j'obtiens les champignons et voilà. Vous connaissez cette et vous savez que c'est le même exemple que je prenais tout à l'heure, ces braves gens là leurs champignons, ils les nourrissent avec du sucre. Et le sucre, on le prend où? Ben, on va le prendre sur de la photosynthèse, dans la betterave. Mais si vous me donnez les betteraves, moi, je vous ferai directement... j'ai pas besoin de passer par ces champignons. Oui, oui. Non, mais on peut faire de la photosynthèse sans... On peut faire de la photosynthèse sans engrais, hein. Enfin, sans beaucoup d'engrais. Hein. Mais enfin, il y a vraiment des cultures bio. Aujourd'hui, bon, au début, moi, j'y croyais pas. J'étais comme vous. Mais j'ai vu des choses sur des cultures bio actuellement où il y a des progrès en biochimie, où vous avez des tas de petites bêtes là-dedans qui vivent, qui décomposent l'humus, qui libèrent ce qu'il y a besoin, etc. C'est vraiment surprenant. Non, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Et il faut qu'on espère. Hein. Il faut qu'on espère, mais je crois qu'il faut qu'on ait des fils directeurs qui soient réfléchis comme ce que peut apporter cette discussion ce soir. Hein. C'est vrai que c'était important de se dire, bon, quand on y réfléchit, et moi, il y a 2-3 ans, c'est vrai que je me disais, le nucléaire, on ne peut pas s'en passer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que bon, ça fait quand même un tout petit peu peur. Hein. On voit quand même des choses qui se sont passées. On sent très bien que... Bon, je veux critiquer personne, mais on sent très bien qu'il faut s'en tirer. Puis de toute façon, heureusement, l'uranium, il n'y en aura pas tout le temps. Donc, quitte à s'arrêter un jour, autant d'en laisser un petit peu de l'uranium, parce que peut-être que nos petits-enfants sont plus intelligents que nous et ils en feront quelque chose de bien. Donc si on a tout consommé dans nos saloperies de centrales nucléaires, il n'y en aura plus. Et donc il faut le laisser dans la terre et puis voir si d'autres générations meilleures que nous arriveront à l'utiliser mieux que nous. Et nous, il faut qu'on trouve une autre solution. Mais des solutions, il y en a beaucoup. Hein. C'est comme on dit, il y a un tiers d'économie à faire, il y a etc. Et puis on doit y arriver. Mais c'est là comment... Moi, ça fait quand même quelques années, vous voyez, je commence à avoir un certain âge, ça fait quelques années que j'entends ça, mais on voit rien bouger quand même. Je sais pas, quand tout à l'heure, on entendait parler de la métamorphose, je trouve que ça, c'est formidable. C'est pas une rupture, c'est etc. Mais je sais pas si un jour, je sais pas comment on arrivera comment on arrivera un jour à dire, bon, bah, écoutez, il faut absolument qu'on change nos façons de vivre. On n'aura jamais le consensus là-dessus. Moi, je ne suis pas optimiste là-dessus.
Alors,
monsieur, vous êtes optimiste ?
Non, ou alors par voie réglementaire, j'en sais rien. Mais toujours est-il, moi, je suis frappé d'une chose, c'est que vous, bon, alors, c'est des régions qui vous ont aidé. Et puis, il y a toutes les solutions dont vous venez de parler, qui sont effectivement énormes, diversifiées, etc. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique au sommet de l'État ou des États pour ça ?
Des politiques ? Alors là, je ne veux pas faire de politique. Hein. Moi, je veux citer mon exemple. C'est vrai que j'ai fait, depuis 2004, un travail formidable. Et j'ai été soutenu par quelqu'un, et je n'ai pas honte de le dire. C'est heureusement que Mme Ségolène Royal était présidente de la région Poitou-Charentes. Parce que, et je vais même vous avouer quelque chose, quand on s'est connus, elle m'avait demandé de prendre des responsabilités et j'ai dit à Madame Royal, et elle en est témoin et elle s'en souvient, elle m'avait demandé de prendre la responsabilité du développement économique de la région et par honnêteté, j'ai dit à Madame Royal, Madame, je ne peux pas parce que je n'ai pas voté pour vous. Et Madame Royal, malgré tout ça, m'a soutenu dans ce que j'ai fait et aujourd'hui, je l'ai dit quand elle s'est présentée aux élections, j'ai voté pour elle parce que sans elle et sans sa conviction de dire il faut... de l'excellence environnementale, c'est, elle le répète, et en permanence, elle en était arrivée à, effectivement, le véhicule électrique, tout le monde en parle, mais qui est-ce qui est le premier à lancer un appel d'offres sur du véhicule électrique à bon marché ? C'est quand même partie de la région Poitou-Charentes, après, bien sûr, ça, c'est beaucoup venu ailleurs, hein, mais ça a demandé quand même un an dedans. J'ai travaillé 5 ans chez Renault. Le véhicule électrique chez Renault, personne ne voulait en entendre parler, et c'était normal. Les constructeurs automobiles, ce sont des motoristes. Et sans leur moteur thermique, ils perdent leur métier. Donc mettre des moteurs électriques fabriqués chez leur sommaire, ça ne leur convenait pas. Et donc ils ne voulaient pas du véhicule électrique. Mais comme ça a commencé à démarrer, ici avec Écomobilité et puis avec Eliès, avec l'AMIA, eh bien sûr, maintenant, des véhicules électriques, dans 5 ans, on aura un choix qui... Et je pense qu'elle a joué un rôle là-dedans. Quand elle s'est lancée sur le photovoltaïque, avec son grand coup sur le photovoltaïque, 100 millions d'euros pour promouvoir le photovoltaïque en région Poitou-Charentes, eh bien, on a démarré très vite, effectivement. On partait de loin. Et je pense que les politiques peuvent apporter quelque chose quand ils veulent. Mais il faut que les politiques ne soient pas pieds et mains liés avec des... Bon, je ne veux pas alors la passer pour un communiste non plus, mais avec... mais il ne faut pas que les politiques soient pieds et mains liés avec des grands groupes qui sont un poids financier énorme. Et je repense encore à autre chose que j'ai entendu aujourd'hui, mais j'en parlerai pas.
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste... Ah oui, vas-y.
J'avais une dernière question. Vous n'avez absolument pas évoqué les problèmes du recyclage des technologies que vous utilisez. C'est, à mon avis, un point très, très important.
Alors, oui, alors bien sûr, ça c'est une question qu'on a souvent. Alors, je ne suis vraiment pas inquiet sur le recyclage du photovoltaïque. D'abord, c'est possible de recycler. Alors pour l'instant, il n'y a pas de marché parce que bon, du photovoltaïque, parce que le photovoltaïque c'est quand même durable. C'est un point quand même essentiel hein, dans le prix et dans tout ça. Parce que, et s'il est encore plus durable, il sera encore moins cher. Donc pour l'instant, la garantie c'est 25 ans. Bon, je parle surtout de la technologie que je connais bien, c'est le silicium, n'est-ce pas là ? La meilleure. Et donc, en fait, on a la certitude que c'est recyclable. On a déjà une usine en Allemagne, par exemple, de SolarWorld qui fait ça.
On l'étudie, on a plusieurs programmes d'études spécifiques là-dessus. Ce qui est le plus intéressant, c'est que dans les évaluations économiques, par le simple, pratiquement, on rembourse le coût du recyclage par la réutilisation des matériaux nobles du module photovoltaïque. Bon, c'est-à-dire à peu près tous les matériaux sauf les polymères. Quand je parle de matériaux nobles, c'est le verre. Bon, bien sûr, le verre, c'est la plus grosse masse du module. Le verre, tout le monde sait que c'est recyclable. Le silicium. Parce que alors, le silicium, en plus, il aura beaucoup de valeur. Le silicium purifié a beaucoup de valeur. Donc, si on le recycle, ça va être très intéressant. Et d'autres matériaux, comme l'argent, parce qu'il y a de l'argent. Enfin, il n'y aura, j'espère, bientôt plus, parce qu'effectivement, vous avez raison. C'est le plus gros souci qu'on a en termes de matériaux. Donc, le recyclage, pour moi, ce ne sera pas un vrai problème. Voilà. Alors, c'est vrai même des autres technologies couches minces, hein, puisqu'on pourra aussi probablement recycler ces modules. Par contre, effectivement, il faut le faire, entre guillemets. Il faudra installer tout ce qu'il faut pour le faire, et y compris du point de vue réglementaire, obligé à ce que ça se fasse. Voilà. Mais ça se fait, ça se fait maintenant pour les produits électroniques. Et un produit électronique, c'est beaucoup plus difficile à recycler.
Oui, le silicium, moi j'en ai fabriqué beaucoup chez Péchine Électrométallurgie, donc silicium métal, et on le recycle aussi très facilement. Alors pour de notre côté, le magnésium est un matériau qui est utilisé pour beaucoup d'applications à la fois dans la métallurgie. Sachez que quand on produit de la fonte en aciérie à la sortie du haut fourneau, on a malheureusement dans le minerai beaucoup de soufre ou certaines quantités de soufre. Et donc le soufre, avant d'élaborer l'acier au convertisseur à oxygène, on est obligé de l'enlever. Et donc on introduit des granules de magnésium. Le marché des granules pour l'Europe, c'est entre 18 et 20 000 tonnes de magnésium par an. Donc, notre projet à nous, pour lorsque les poudres seront en fin de vie, on donne des garanties de 10 ans de fonctionnement sur un réservoir en fin de vie. Donc on va regranuler ces poudres et les vendre comme des sulfurants en aciérie. Voilà.
Bien. Merci à tous nos intervenants.
Juste un mot, je vous rappelle que la semaine n'est pas terminée. Demain soir, 17h, si vous voulez entendre parler de questions juridiques, énergie et droit et énergie, donc 17h ici, et puis encore le week-end, samedi après-midi, toute une série d'interventions, conférences autour de l'économie, l'utilisation de l'énergie de la mer notamment. Et des films, samedi et dimanche. Merci, bonsoir.